bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, et surtout bonsoir bande de blaireaux, c'est Margot, qui vous parle car l'autre naze a démissionné, je vais reprendre en main cette bande de sans-cheveux et d'alcooliques déprimés. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 22 octobre, et je sens que je vais bien me faire chier pour ma première émission, donc qu'avons-nous autour de la table? Ah bah je vais commencer par lui, car c'est le seul qui semble gentil, mais c'est le seul également, à qui il manque des cheveux, j'ai nommé Christophe. Ah bah puis lui il en a une tête, on croirait le premier de la classe mais barre-toi fuis. Moi je me suis bien fait avoir, mais toi avec ta tête de Tintin reporter tu as encore une chance. Oh et puis merde reste là je me ferai moins suer en ta présence, mais je te préviens si je sors de ce PC je peux être une vraie chaudasse.
Salut.
Oui en plus il y a des invités, après tu me diras. L'autre manouche m'a vendu la prestation en me disant que les invités allaient être hyper intéressants et que je devrais me sentir à l'aise, mais quand je vois le genre des types, ça ne donne pas vraiment envie d'attaquer la discussion. Et les gars, faut évoluer, ok? Les jeux vidéo Atari et Amstrad, c'est fini. Il est temps de passer à autre chose, genre un travail. Vous savez ce que c'est le travail? Bon de toute façon vu vos têtes je pense que le travail est pas pour demain, vous êtes là pour nous parler de votre association Pixel, j'ai nommé les gens de Pixel. Oh là là et c'est qui celle-là? Eh bien elle en a une tête le carnage, elle ne pas sucer que de la glace, je sens déjà que je ne vais pas l'aimer le pot à goutte, le puits s'en fond la cuve à pinard. Ça fait une belle brochette de gagnant tout ça. Mais qu'est-ce que je fous là franchement? J'ai nommé Starlet. Tiens mec, je vois là-bas. Ma parole c'est Jeremiah Johnson ou Robinson Crusoe. Dis donc mon grand, il faudrait peut-être t'arranger un peu quand tu reçois chez toi. Non mais tu as vu ta tête? Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit avec Sue Ellen, à sa droite ils vont bien ensemble. Allez, je te redonne le contrôle de l'émission, mais fais vite car franchement ça n'a pas encore commencé que j'ai déjà envie de me tirer fissa direct de ce musée de la curiosité. Bonne journée les pecnos, et j'espère n'avoir pas été trop dur avec vous pour ma première présentation, mais de toute façon je m'en fous royalement, je suis une garce de première. Bisous les chachas.
Ça y est, il a démissionné alors.
Ça y est, Marius a enfin démissionné, il a sa place à une intelligence artificielle.
C'est mieux, non?
Il a par fait contre, quoi... elle est un peu dépressive, non?
Il a fait quoi? Il avait ça avec quoi?
Alors tu demanderas.
GPS, ça, non tout. Un truc comme ça, non hein? Ça fait très Catherine de GPS.
Ah oui.
Tu peux choisir entre deux voies. Je trouve que c'est un peu Catherine.
Non, je sais pas. Peux la retrouver au 8-22-22.
Tu la connais bien, toi?
Ouais, 36-15 GPS.
L'avantage, c'est qu'elle corrige les fautes d'orthographe.
Ça fait bizarre quand même d'entendre les expressions de Marius par la voix de Catherine du GPS.
C'est
très bizarre. Ouais.
Mais on devrait utiliser plus souvent le mot pecno.
Ouais. Pecno, c'est bien. Pecno.
Mais qui
bien.
A parlé?
Mais qui donc?
Eh ben justement, après la rentrée un peu dissipée qu'on a eue le mois dernier, nous voilà avec un épisode qui était un petit peu chaotique. Plaisant mais assez chaotique.
Parlons-en.
Cette fois-ci, on va essayer un peu de se reprendre en main avec l'avenue d'invités. On va essayer de se cadrer un peu, de se professionnaliser, hein, n'est-ce pas, Freddy?
Le Starlet, elle se souvient même pas qu'on a fait un enregistrement.
Donc, on a fait en sorte que les perturbateurs ne soient pas présents, hein, Marius le premier. Et on va faire un épisode, bah, on va essayer de faire ça sérieusement. Non, mais on a eu un peu de mal à trouver une date, donc beaucoup d'entre nous sont en vacances. On leur fait des coucous quand même, hein. ils ont le droit de passer un peu de temps libre au-delà de l'entrepôt, bien sûr.
De réparer leur bagnole.
Merci.
Accessoirement.
Je les autorise. Dans ma grande mansuétude, c'est comme ça que...
Quelle générosité.
Voilà. On reprend nos habitudes, du coup, avec un épisode avec deux invités aujourd'hui, qui représentent une association, l'association Pixel. Vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois à ce micro. Donc ça sera un épisode axé sur une discussion avec nos invités qui sera ponctué également par trois rubriques, donc Freddy, Starlet et moi-même, avec Starlet qui nous testera en live quelque chose, donc attention, testez pour nous en live, on va voir ce que ça donne.
Elle va essayer de ne pas boire de la soirée.
Merde, je me suis encore...
Merde, elle a perdu.
C'est raté là.
Je perds au quiz, je perds à tout.
Et puis en parlant du quiz, justement Freddy, tu nous as préparé un quiz cette fois-ci ou pas?
Alors un quiz... Partie geek, partie actu.
D'accord.
Et évidemment, la dernière question avec un cadeau pour les poditeurs.
Oh, ça, c'est formidable.
Et un beau cadeau. Hein,
un beau cadeau. Ouais. Christophe bave déjà dessus.
Ah, mais c'est pour les poditeurs. Donc,
on enlèvera la bave avant de l'envoyer.
Et enfin, nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes chrono pour finir nos épisodes. Pour finir notre épisode, pardon. Et du coup, Freddy, est-ce qu'on commence par toi ?
Eh ben oui.
Ça te dit ?
Allez,
allons-y.
Une ambiance musicale.
Une ambiance musicale alors. Pour commencer. Et puis après, bien sûr, on enchaînera avec nos invités. On n'enchaînera pas nos invités, on enchaînera avec nos invités.
On s'en va.
Je sentais le regard inquiet de, en bout de table. Partir.
Alors lui, Paul, on peut l'enchaîner, mais avec le saucisson.
Non mais comment ? Mais vous ne me reconnaissez pas ? Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion.
Ah, et ben après ça, croyez-moi, on se sent mieux.
On se sent mieux, hein.
Freddy. Ah ben je sais pas. Après ça, on verra si on se sent mieux.
Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Je vais vous présenter les trois albums de l'automne. J'avais fait un petit billet sur l'entrepôt pour vous présenter les trois albums de la rentrée. Les trois immanquables. Et ben on enchaîne avec trois nouveaux albums qui sont sortis dans les 15 jours, le mois dernier ou le mois qui vient. Et bah vous allez me dire
ils sont
ce que
sortis
vous en
le mois qui vient.
Ils vont sortir.
Ah pardon, excuse-moi.
Non, ils sont sortis le mois qui vient. On y va. On commence par le premier.
Pour rien.
Alors vous allez voir, le nom est un peu dur à dire. L'artiste s'appelle Emma Ruth Rundel.
Comment?
Emma Ruth. En plus, je me suis dit, putain, je l'ai bien dit, alors que j'étais sûr de pas bien le dire. Emma Ruth Rundel.
Comment? On fait longtemps ou?
Voilà, c'est une artiste qui sort un album qui s'appelle Market for Death. Bon, donc son nom est aussi imprononçable que sa musique est belle. Dans la droite lignée de ces artistes américaines qui placent leur voix sur des guitares qui plaignent la condition humaine, une songwriter habituée à hanter les scènes d'Amérique. L'image d'une Teeny Vipers, pour ceux qui connaissent, Emma Ruth Rundel trace sa route bien au-delà de la zone d'inconfort, explorant les scènes d'Europe ces derniers temps où elle ouvre les concerts de Woven Hand. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Excusez du peu quand même. Des gens qui l'accompagnent. Donc, la Californienne sort un nouvel album solo intitulé Market for Death, on l'a dit. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. Nico, si tu peux mettre un petit peu plus fort. Mieux si on avait eu le refrain qui tombait pile, mais on n'a pas répété, donc c'est pas grave. Vous aurez évidemment l'écoute de tout ça sur le site de l'Entrepod. Donc voilà, c'est profond, c'est à vif, c'est à cran, c'est Emma Ruth Rundel. Tu vois, je l'ai encore bien
son prénom, c'est Emma.
Emma. Sachez qu'un bon ami à moi l'a suivi sur trois dates consécutives en octobre, qui a fait la Belgique, Paris et Orléans. On peut dire que c'est un fan. Il m'a porté ce dernier album qu'on trouve au format vinyle. J'ai dit, c'est un ami, hein, il m'a ramené le vinyle. Et il est revenu avec une confidence aussi. Elle pourrait revenir en France au printemps prochain. Et pourquoi pas non loin de chez vous, amis rouennais.
Avec
restez connectés.
Oh. Oh.
On le dit, potin, mais non. Il n'y a absolument rien de fait, mais évidemment, on aimerait beaucoup programmer cet artiste.
Il y a une partie violoncelle, corde, elle est accompagnée de...
Absolument, oui. Elle se produit soit en solo, soit accompagnée d'un groupe. Et là, ça donne évidemment une richesse incroyable à l'ensemble.
D'accord.
Voilà pour ce premier album de l'automne.
Très bien. Ensuite,
je vous en propose un deuxième qui s'appelle un artiste, qui a un groupe qui s'appelle House of Wolves. Pas facile non plus à dire. House of Wolves. Bon, je le dis bien.
Ça va,
hein ? Ouais. L'album, c'est le même, ça s'appelle House of Wolves.
La maison du loup ?
Ouais, c'est ça.
La maison des loups.
Des loups. Ouais. Alors attention, parce que voilà l'un des albums de cette fin d'année, j'ai pas peur de le dire. House of Wolves,
par rien,
House of Wolves, c'est de la balle, c'est de la bombe, comme on disait dans les années 90. Approuvé par Libé.
C'est trop d'art.
Approuvé par Libé, qui en a fait son son du jour le 29 septembre dernier. L'auteur de la chronique définit le disque par ces quelques mots. Alors attention. Alors, on s'y projette allègrement, comme on se projette dans un paysage sauvage et suffisamment abstrait pour ne pas s'imposer à la partie de l'intellect qui gère les intertextes et les associations d'idées.
J'ai rien compris.
Au-delà de ces archers de décor mental dont joue l'artiste, les chansons de ce second couteau attachant du folk contemporain font du bien à la musique, autant qu'à l'âme en peine. Les puristes du genre folk américain apprécieront pour la précision de son coup de pinceau, les néophytes pour les sentiments assez intenses qui circulent entre les notes et les mots. Ça va, tout le monde a suivi?
Ouais, c'est de la bouche.
Un peu d'aspirine peut-être pour nos invités.
Il dessine, non?
Ah, c'est ça, c'est des coups de pinceau là, j'ai pas.
De toute façon.
C'est de la musique ou c'est un.
De toute façon, je vous permets pas de critiquer la critique.
Ah, d'accord, ah, ça devient comme ça maintenant ici.
Pour la simple et bonne raison que le journaliste de Libé s'appelle Olivier Lame.
Ah, d'accord.
Voilà.
D'accord. Ah, en plus, c'est copinage et compagnie.
Comme moi, mais sans le E à la fin, ce qui est assez,
c'est
assez drôle. Non, il manque un E à la fin, ah. Il n'y a pas la particule.
Il avait honte de faire partie.
Allez, Nico, lance le bousin, comme on disait dans les années. Là, en fait, on l'a jamais dit.
C'est con, c'est pas tombé sur le refrain.
On est bien tombé, c'était le refrain de Starlet.
Cela étant, à voir dans l'ensemble de l'album, mais c'est pas déplaisant.
Ouais, après, il y a pas mal. Ouais, c'est
une heure super. De ça, ça m'embêterait. Mais
il y a un petit côté un peu rover, mais je voudrais pas le comparer.
Non,
mais il y a un petit côté.
Non.
Alors, si je te fais écouter un autre morceau, tu vas me dire ah oui.
Je sais pas.
Bah, c'est pas celui-là que tu as choisi. En tout
cas. Je vous conseille en tout cas de suivre Ray Villalobos, c'est le nom du monsieur qui est à la tête du groupe. Et puis je vous conseille évidemment d'acheter ce nouvel album qui n'a pas de titre.
Éponyme.
Je l'ai dit, puisqu'il est éponyme. Pour Marius, c'est pas le nom de l'album. Voilà. Donc la jaquette représente un champ de fleurs fanées. Mais alors les morceaux qu'il compose, c'est un bouquet de bonheur.
Oh,
vous pourrez découvrir ça, amis de l'anthropode.
Ça ressemble à...
Bah, on a le droit de faire un peu de poésie.
Ça ressemble à l'ancien visuel de Kenkyu.
Oui.
Bah, c'est exactement, c'est pour ça que je t'ai montré ça. En moins rouge, mais sinon c'est ça.
Ouais. Ils ont copié quoi.
Bah certainement, mais moi je serais vous, je ferais un procès. Quoi.
Ouais. On va y réfléchir.
On y va, troisième album de l'automne. C'est un groupe dont j'ai déjà parlé à ce micro. Un groupe qui s'appelle oui. Motorama, qui sort un album qui s'appelle Dialogue. Alors Motorama, il faut dire que c'est l'un de mes groupes préférés, c'est aussi pour ça que je vous en parle souvent. J'aime autant vous dire que j'aime autant les voir sur scène que les écouter sur ma platine. Motorama, c'est de la cold wave venue de Rostov-sur-le-Don, vous savez où c'est?
En Bretagne.
Le cold wave, ça faisait très exotique. Puis là, d'un coup,
c'est presque monté très vite. C'est presque redescendre tout ceci.
Mais alors, prenez une leçon de géographie. Rostov-sur-le-Don, c'est en Russie.
D'accord.
Ah oui, que c'est pas banal. Hein. Une formation assez improbable, qui n'a ni le look ni les manières des groupes de rock d'aujourd'hui. Comprenez que la première fois que j'ai vu le groupe sur scène, j'ai cru que le chanteur était le conducteur du van, pour vous dire. Pas de tatouage, une chemise, un pull, des lunettes cerclées de métal.
Pas de tatouage.
Non.
On dirait Étienne Daho.
Un échange minimaliste avec le public, une froideur sur scène de mémoire de spectateur, de quelques centaines de concerts à mon actif. Je n'avais jamais vu ça. Et puis l'after show arrive et là les mecs sourient et échangent quelques paroles avec le public. Bon, c'est pas pouette-pouette les gigolettes non plus, mais on s'aperçoit que les Motorama...
C'est les 82, 83, c'est l'expression, je crois.
On fera une recherche sur Google pour définir la date. Mais en fait, ouais, bon, ce sont des gros timides. Hein, voilà. Eux qui frôlent les 200 dates sur les deux dernières années sont aussi introvertis qu'un ado à sa première boum. Bref, avant de vous parler dialogue, c'est
boom,
le nom...
c'est pareil, ça existe plus, ça.
Le nom de l'album.
Et les sur-boom.
On dit plus une boom.
Ça s'est terminé en 96.
Ouais. Christophe, t'as des ados?
Oui.
Est-ce qu'on dit toujours une boom?
Non, on dit plus une boom.
Merde. On dit une grosse daras.
Attends, je tombe des nues.
Une boom, actuellement, ça s'est apparenté à autre chose, de plus violent. Ouais.
Et donc, on dit quoi maintenant?
On dit rien.
Comme l'album de tout à l'heure, on dit rien.
Ils font plus.
On
ils
font éponyme. Rien.
Bon, en tout cas, je vous propose d'en écouter un bout, Nico, si tu peux lancer Tell Me. Merci Nico. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à notre ami Cédrico, qui est à Padoue, en Italie, et qui va aller voir sur mes conseils, je crois, demain.
Oh, Cédric qui va aller voir. Ouais,
donc
de
demain, je veux dire dimanche 30.
Et non pas dimanche 23, parce que Marius a dit qu'on était le 22 dans le. Mais non, on est le 29.
De mémoire, je crois que c'est demain. Il joue à Padoue et j'ai conseillé. Peut-être ça lui plaira pas, mais en tout cas, il avait l'air assez. Il a écouté et puis il s'est dit qu'il allait voir ça.
On passe le coucou à Cédrico.
Mmh. Voilà. Donc, Dialogue, c'est le nom de l'album. C'est la suite dans les idées, la confirmation, la maturité. Non, de conneries, tout ça. Je parlerai plutôt.
J'y ai presque cru. Hein,
Pourtant, j'ai pas mis le bon ton dans la question. Enfin, bref. Je parlerai plutôt d'un talent brut, toujours pas épuisé. Le premier album du groupe Calendar, sorti en 2012. Alors le groupe est très prolifique, hein. C'est le quatrième album depuis 2012. Et en plus, il tourne tout le temps. Le premier album comportait déjà les mêmes pépites, la même énergie, la même singularité aussi.
Les mêmes morceaux ?
Ah mais oui, mais c'est pour ça. Mais j'ai pas compris, ils ressortent le même à chaque fois. En tout cas, je vous mets au défi de trouver un groupe d'aujourd'hui similaire. Le groupe s'appelle Motorama, l'album s'appelle Dialogue. Il vient de sortir sur l'excellent label Talitre, dont je parlerai un peu plus tard dans l'émission.
Et donc, vous avez bien tous compris, amis poditeurs, que Freddy vous met au défi. N'hésitez pas à le défier et à lui montrer qu'il a complètement tort.
Oui, oui, ou pas, n'hésitez pas.
Si vous avez des
contre-exemples. Le défi Motorama.
À être lancé. Écoute, merci Freddy. Vous retrouverez ces trois titres qui ont été diffusés sur la playlist Spotify de l'épisode. Et puis ça vous permettra peut-être d'aller creuser un peu plus sur ces trois artistes que Freddy nous présente. C'est un rendez-vous qui va revenir régulièrement, ça, tes trois
Pourquoi
artistes
pas,
non, mais c'est intéressant en fait d'avoir cette
trois albums de l'hiver.
Allez, on va faire ça. Ça vous a plu, les invités? Il y a un truc qui vous a branché un peu plus qu'un autre?
Ouais, le dernier groupe là, ça m'a bien tenté.
Moi, le deuxième là, celui
House of Wolves.
Il se lance pas dans l'anglais.
Non, mais jamais.
La maison des loups.
Attention. La maison des loups. Non, je le trouve assez. C'est un truc que je pourrais écouter tranquillement en rentrant.
Ils sont polis. Hein.
On est très bien élevés.
Paul, est-ce que tu échanges le saucisson contre le vin?
Bien sûr que
sans
non.
Sans transition.
Non, je vais prendre de l'eau. Merci beaucoup.
Et du coup, on va passer maintenant à la rubrique de nos invités. On va commencer à les cuisiner.
À les présenter
tout ça. Et on va échanger avec eux. C'est parti.
Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
Ouais. Si vous avez vu le questionnaire, vous saurez que La Classe américaine, Le Grand Détournement fait partie des films cultes de Géraldine ici présente. Donc forcément, la référence.
Moi j'avais lu.
Merci.
Tu le savais toi Freddy, toi tu es bien, tu es quelqu'un de bien. Et bien justement, hein, Géraldine. Ah, ouais, il fait gaffe.
Une attaque de chat en direct.
Qu'il est con.
Il aime pas quoi?
Il aime pas les gens. Il aime pas les gens.
Il aime pas les chips.
Moi, il m'aimait bien.
Ouais. Nico a dressé son chat à déshabiller les femmes. C'est quand même incroyable.
Et oui, parce que moi, il m'a pas déshabillé du tout.
T'es pas mon genre.
Nos invités aujourd'hui, on a déjà commencé un petit peu à échanger. Vous avez déjà entendu un peu leur voix. Il y a donc Géraldine et Paul de l'association Pixel. Paul, on l'avait déjà reçu à notre micro il y a 2 ans maintenant, à l'occasion de notre première participation à Normandie Bulle. Et à l'époque, tu nous avais fait un teasing justement de la création de Pixel. Je l'ai réécouté cette semaine justement. Tu me disais, voilà, il va y avoir une association, on va lancer quelque chose, un collectif. Voilà, et du coup, 2 ans plus tard, on va faire un petit point sur ce qu'est Pixel maintenant.
Est-ce qu'on peut dire que Pixel, ça s'écrit avec un 3 à la place du E? Parce que si vous tapez Pixel dans Google, vous n'avez aucune chance de trouver.
Vous allez tomber le téléphone de Google, parce que Google est plus percutant sur les moteurs de recherche
que vous.
C'est lui qui les fait.
C'est vraiment étrange. Moi, je pense théorie du complot.
Théorie du complot, on n'a pas réussi à appeler.
Les petites gens, tout de suite, ils essaient de trouver des excuses au fait qu'ils ne sont pas connus.
Alors que nous, tu tapes Entrepôt. T'as l'entrepôt. Comme sur l'entrepôt, la solderie et avenue Jean Rondeau à Rouen.
Donc au cours de nos échanges, on va vous laisser nous présenter justement Pixel, son origine, ses statuts, ses composantes, puisque c'est On t'avait rencontré avec Back to the Game, mais il n'y a pas que Back to the Game qui compose Pixel. On peut dire, je pense sans trop dévoiler de secret, que vous êtes plutôt des technophiles, voire même que vous revendiquez geek. On vous laissera peut-être présenter ce que vous entendez. ce que vous entendez vous dans le terme geek.
Parce c'est
que
pas c'est contagieux.
C'est un mot qu'on entend un petit peu à toutes les sauces dans les médias. Mais vous avez plutôt un lien avec ce qu'on peut retrouver nous ici. C'est plutôt la culture pop, la culture populaire qu'on aborde assez régulièrement à nos micros. Donc, que ce soit les jeux vidéo, la BD, le cinéma, les séries, etc. etc. Donc, vous allez nous détailler un petit peu tout ça. Mais on va commencer honneur aux dames, Géraldine. D'où viens-tu et comment es-tu arrivée dans l'association Pixel?
Quel est ton
rôle dans Pixel?
Alors, dans Pixel, moi, j'ai un rôle de coordination et aussi, du coup, surtout sur de la médiation, de la diffusion des cultures numériques. Donc, ça va passer par à la fois des ateliers, de la communication web, de la communication visuelle aussi. Donc, je ne suis pas toute seule pour faire tout ça. Hein. On est deux salariés. Donc Sylvain, qui n'est pas là ce soir, mais qui a déjà travaillé toute la journée. Donc,
il nous aime pas, en fait.
Voilà. Il a travaillé très dur
avec de la réalité virtuelle, tout ça. Des enfants,
quand même. C'est d'être dur, oui. Ouais.
Des vrais, hein.
Ah, mais nous, on a confié les nôtres à la famille aujourd'hui.
Trop fatigant.
Du coup, oui, ça va passer par un peu toutes les différentes missions de Pixel, en fait, dans le contact avec à la fois les artistes et aussi les différents publics. Mmh. Dans la communication de manière générale et puis avec les partenaires aussi.
D'accord. Très bien. Paul, toi, tu nous avais déjà un petit peu donné un petit peu ton parcours, mais rafraîchis-nous la mémoire. Comment es-tu arrivé à ton statut, c'est président de Pixel toujours ou...
Alors, c'est un petit peu compliqué. J'en reviendrai peut-être sur
après, vous nous direz un peu.
Voilà.
L'idée, ça sent les sous de table.
C'est de vous présenter tous les deux, à savoir qui on a à table, et puis après, on expliquera un peu le.
Donc, moi, je suis toujours président de Back to the Game. La dernière fois qu'on s'était croisés, ouais, c'était autour de ça. Et puis, j'ai pris la présidence. Je suis un des cofondateurs de Pixel. Aujourd'hui, je suis le référent sur tout ce qui est question de numérique, jeux vidéo. Et réalité virtuelle, voilà tout ce qui va toucher à l'interaction avec l'image.
D'accord.
Et principalement autour des arts ludiques. Et puis voilà. Et d'accord. Puis et voilà comment je suis arrivé. Je suis arrivé au tout début, mais ça on en parlera un petit peu après.
D'accord. Tu as déjà commencé à aborder des sujets moi qui me tiennent à cœur quand vous parlez d'art ludique. Il y a un mot art dedans qui me paraît assez important et qui est souvent sujet à controverse. N'hésitez pas mes chers collègues à me couper la parole parce que sinon je risque de couper la parole ou de monopoliser
les deux.
Foiré, je vais te couper ton micro. Justement, on parle de Pixel depuis tout à l'heure, mais déjà, qu'est-ce que Pixel, qu'est-ce que ça couvre et pourquoi ce nom Pixel?
Un petit hommage à Ludo. Pixel, qu'est-ce à dire?
Exactement.
Bon, allez, j'y vais, je m'y colle. On est obligé de Pixel pour l'expliquer du coup et pourquoi il y a un fameux 3 dans le nom. En gros, c'est un E renversé. Hein.
Waouh!
Wow. Ouais. La technologie aujourd'hui, c'est
un truc de fou. Hein. On a pris des rails de coke à plus savoir comment faire pour sortir un truc pareil.
Et putain, ils vont repartir avec Christophe dans la poche tout à l'heure, tu vas voir.
Ah mais moi je consomme plus. Hein.
Non, il faut revenir un tout
plus,
petit peu.
Plus.
Il faut revenir un tout petit peu aux origines. Il y a 2 ans maintenant, donc il y a eu 3 associations qui se sont rencontrées autour d'un verre, parce que c'est comme ça qu'on se rencontre le mieux. Une association qui faisait de la médiation autour du jeu vidéo, Back to the Game. Une autre association qui faisait du cinéma, de la projection. Et puis une troisième qui faisait de l'aide à la création numérique et visuelle, voilà, autour d'appareils photo, autour de caméras, de jeux avec l'image, etc. Et ces 3 structures-là se sont rencontrées, se sont dit, voilà, nous, on a envie de faire autre chose, on a envie de grandir, mais on ne peut pas grandir tout seul, et puis on va essayer de grandir ensemble. Et du coup, on a fondé Pixel comme ça, d'où le 3.
D'accord.
Voilà, ça vient de tour de...
Tout c'est clair.
Oui, 3, parce que 3 plus 3 plus 3, ça fait 9, et puis 9 renversé, ça fait 6, et voilà, et on peut...
6, 6, 6,
exactement. On n'est pas très loin d'un complot.
Ah là 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 là.
Et du coup, là, de ces 3 structures-là...
Encore la faute des francs-maçons, tout ça.
On parlera de Dr. Who après. du coup, ces trois structures-là, au lieu de fusionner et d'en créer une seule, parce que ces trois structures-là existent encore, une un petit peu moins, mais en tout cas, les trois fondatrices existent encore, on a créé une suprastructure qui s'appelle aujourd'hui Pixel.
D'accord.
Et alors, si on parle concrètement, votre travail, c'est quoi au quotidien? Est-ce que vous faites des interventions, des expos, des rendez-vous?
Alors déjà, notre travail, parce que du coup, c'est une association, une vraie de vraie, avec, parce que les trois associations qu'on vous parlait, il n'y avait quasiment pas de salariés. Une en avait un, mais un peu de manière vacataire et très, très ponctuelle.
Payé au noir, quoi.
Ou pas de manière tout. Très vacataire et très ponctuelle.
Donc tu parlais de quelle association, en fait? Si les services de l'URSSAF vous écoutent.
Exactement. Et du coup, on voulait créer une vraie structure, une structure avec des salariés, avec des gens qui vivent de leur travail. Et quel travail on propose? Du coup, on propose de l'aide à la création, on propose également de la création numérique à partir d'appareils photo, d'écrans, de téléphones, de tablettes, de smartphones. Bref, de tout ce qui va toucher effectivement la culture geek, mais plutôt le numérique en général. Mmh. Nous, le mot geek, on reviendra peut-être dessus, mais dans Pixel, c'est pas si geek que ça.
Ça m'arrange pas pour mon quiz.
Mais c'est pas grave, on a un petit niveau. En vrai, tout le monde est un peu geek aujourd'hui. Mais...
Tu sais, on a reçu Elian qui venait nous parler de cinéma. Il s'est pris un zéro pointé au quiz cinéma.
Donc, comme quoi.
Il m'en a reparlé.
Il nous en a reparlé
à une soirée organisée par Pixel.
Du coup, le deuxième point, effectivement, la diffusion. Elian est un des trois mousquetaires. Du coup, en tout cas, la fondation. Il a porté également Pixel au même titre que Sylvain et moi au départ, et puis du coup lui il s'est vraiment chargé de comment on diffuse des films, des courts-métrages, mais aussi du coup on a dérivé comment on diffuse un jeu, comment on diffuse une œuvre numérique, etc. En gros, chacun est venu apporter du coup ses compétences, son savoir pour porter ça. Et puis le troisième, c'est du coup la médiation pure et dure et la création d'expositions. Et ça, je vais laisser par contre Géraldine en parler, parce que c'est un peu son travail à elle.
Ouais, c'est à la fois la création d'expositions au niveau de tout ce qui est numérique. Donc on travaille beaucoup sur le jeu vidéo en termes d'exposition, mais on est aussi sur du cinéma, où là, on ne fait pas vraiment d'exposition, mais du coup, on fait de la diffusion. On organise avec le Courtivore des projections. Après, sur ce qui est médiation, on a aussi des ateliers, des parcours, des formations sur tout ce qui est numérique et sur les différents médias numériques.
Et un truc qu'on voulait juste rajouter, parce que faire des expos, faire de la diffusion, etc., ça paraît un peu pompeux. Faut imaginer que dans les statuts de Pixel, il y a quand même marqué fun et cool. Il fallait exactement que toutes ces trois choses-là, que ça soit du jeu vidéo, du cinéma, de l'art visuel, ça soit toujours fun et cool. Aujourd'hui, Sylvain, qui est absent ce soir, il était toute la journée à Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans un centre social ou dans une maison de
l'espace
Georges Désiré, pour parce que maintenant Saint-Étienne-du-Rouvray est connu nationalement, c'était en face, et il s'est passé ça, et pour nous c'était très important d'être très près du public et puis de rendre ça le plus accessible possible.
Il y a aussi une notion, tu parlais de culture populaire et que finalement pas que populaire. On essaie de varier en fait les propositions qu'on a, et puis de faire se rencontrer à la fois donc la culture pop, donc nous on est beaucoup dedans, mais on est aussi ancré dans un petit monde, on va dire, une petite sphère rouennaise d'artistes d'art contemporain en fait, et on essaie de faire se rencontrer justement ces gens-là, et puis on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire au final.
Il y a des ponts qui se créent.
Voilà.
Christophe, allez.
Vous parliez de formation. Quel type de formation vous proposez, et à quel public surtout? Parce que là, dit comme ça, ça a l'air super intéressant. Donc,
il y a des étoiles dans les yeux.
J'ai été voir un petit peu sur votre site en construction. Donc, il y a partage d'outils, formation, etc. Donc, voilà, je voudrais en savoir un peu plus sur ça, quoi.
Alors, pour l'instant, sur les formations, on est en partenariat principalement avec l'ARL, donc l'Agence Régionale du Livre et de la Lecture. Ah. Donc, ça, c'est notre principal partenariat sur la formation. On propose des formations donc aux professionnels du livre, donc souvent c'est dans des médiathèques avec des personnes qui travaillent dans les médiathèques pour proposer une offre souvent de jeux vidéo. On a aussi sur de la création multimédia, montrer des outils en fait, et montrer tout ce qu'on peut faire, et puis un peu initier peut-être des démarches dans des structures précises, dans des médiathèques précises. Après, sur les formations, on est aussi en contact avec des établissements scolaires, en fait. Donc, on est à la fois en contact avec les profs et avec les élèves.
Mais ça ne s'adresse pas à des particuliers, par exemple, qui voudraient...
Toi, par exemple.
S'initier à un domaine
ami,
quelconque.
Oui, alors...
Non, parce que là, ça c'est scolaire, étudiant, oui.
Ça, c'est
etc.
la formation dans le... On va dire dans la mission médiation merci, culturelle. Après, ce qu'on peut proposer aussi aux artistes qui sont adhérents de Pixel, qu'on va suivre sur des projets, on peut leur proposer évidemment des formations sur des techniques assez oui. précises, en fait, sur des outils qu'on aurait nous à Pixel, du matériel qu'on aurait nous.
En gros, d'accord. Tout le volet formation professionnelle, en gros, Pixel, ça a 2 ans aujourd'hui. Il y a eu plein de... Le projet original, c'était un... Oui, on dit original. Le projet original, c'était un lieu... original, hein, voilà. Le projet original, c'était un lieu physique où on pouvait accueillir des personnes. Aujourd'hui, ça s'est un peu transformé parce que la vie d'une structure doit effectivement aussi se transformer.
Mais par exemple, si...
Non, tu ne remplaceras pas une. Hein,
C'est pour illustrer en fait, le propos. C'est-à-dire, si demain, par exemple, je donne un exemple... Si par exemple, demain, un groupe de musique vient vous voir en disant, voilà, on a un morceau. Et on voudrait faire un clip sur notre morceau en stop motion. Mm-hmm. Est-ce qu'à partir de là, vous pouvez apporter un appui, une aide ? Est-ce que vous pouvez porter avec nous le projet, nous donner
une
des
expertise.
Pistes, etc., etc. quoi.
Oui, alors, si c'est ce groupe d'amis qui a décidé de faire ce clip en stop motion, qui a envie de s'initier, on peut éventuellement montrer la technique, un peu accompagner aussi le projet. Mmh. On peut aussi... Du coup, si ce groupe d'amis a décidé que...
Sacré ça bon fait beaucoup d'amis, de sous-entendus
mais
que personne ne
comprend. Christophe, tu pensais à quelqu'un en particulier ou...
J'ai dit un groupe de musique, j'ai pas dit un groupe d'amis.
Il a pas dit que vous étiez sans amis. Hein.
On peut aussi faire appel du coup, à des personnes qui font partie un peu de notre réseau, qui maîtriseraient, qui seraient professionnelles en fait, de cette technique. Ouais. Ou,
la mise en
de
relation, ce... en fait.
Voilà. Ouais. On peut... En fait, c'est aussi un réseau Pixel. C'est que du coup, on essaie de vraiment mettre en relation toutes les personnes qui auraient besoin. On travaille aussi parfois pour faire des teasers sur des spectacles sur des spectacles de théâtre.
En plus, la prestation n'est facturée que 725 000 euros.
Et je dis que Malion n'a qu'à bien se tenir.
L'aubaine,
maudique somme.
Combien 725 000
bon, non, mais c'est rien. Ce soir, vous venez à titre gracieux, j'espère.
Ah, on leur a pas parlé.
On a pas
c'est
parlé.
Pas cher. Hein.
Non, mais la mise en réseau, pour nous, c'était extrêmement important. C'est-à-dire, effectivement, il y a 2 salariés qui travaillent beaucoup, qui gèrent tout l'intendance, qui gèrent toutes les prestations, les médiations, etc. Et qui gèrent aussi également l'animation de réseau. Mais le réseau, c'est beaucoup, je sais plus, je crois que c'est 10 ou 15 artistes qui travaillent régulièrement avec Pixel. C'est-à-dire, c'est 2 salariés qui sont embauchés, mais c'est aussi 15 artistes qui vivent un petit peu, alors pas à temps plein, effectivement, comme une...
À votre crochet.
Mais qu'on arrive en tout cas à faire vivre. Et pour nous, c'est
très important. On a des bouches à nourrir. Hein.
Voilà, au-delà du projet sympa, effectivement, de ces 3 personnes-là, c'est
cool
de créer
un
modèle cool et fun. Fun et cool. Mais c'était aussi un modèle économique à part entière. Bon, on en parlera peut-être un peu après sur la suite.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur votre cœur d'activité. Il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez eu une carte blanche au Calife à Rouen, une après-midi, même une soirée.
Une soirée.
Vous avez fait un peu ce que vous vouliez. Est-ce que ça
enfin,
représentait
n'importe quoi, hein, on y était.
Mais surtout n'importe quoi. Est-ce que ça représentait un petit peu votre univers et qu'est-ce qu'on a pu y voir, est-ce qu'on a pu y vivre comme expérience?
Eh bien oui, l'idée c'était vraiment justement que ça représente notre univers, montrer un peu tout ce qu'on peut proposer. Donc l'après-midi, on avait décidé de proposer des ateliers qui étaient en libre service pour les gens qui avaient envie de passer, voir, juste regarder ou vraiment s'initier à des techniques. Donc on avait un atelier de stop motion, de création de jeux vidéo sur tablette. Il y avait Xavier Feugré, donc Nord, qui était
qu'on ne connaît pas.
Qui est passé qui est passé ici parce que je suis aussi l'entrepreneur. Je suis bonne élève.
Pas ici.
À qui on a diffusé par exemple son clip en 360
à une autre soirée au Calife.
À une autre soirée au Calife, voilà. Oui, au-delà de la formation, c'est aussi promouvoir les.
Oui.
Oui. Et donc lui il était là ce jour-là pour un atelier d'initiation à la création musicale sur tablette aussi. On avait aussi un atelier d'initiation au mapping avec le collectif La Cachette. avec qui on travaille beaucoup en ce moment.
Et donc Mapping, c'est, oui, enfin, c'est, on a eu l'occasion d'en discuter, c'est la projection sur des formes, sur un peu ce qu'on peut voir sur la cathédrale à Rouen. C'est oui, un peu, c'est si ça. Je caricature un peu, si on voit les grandes choses.
C'est le principe, oui, c'est
mais
ça.
Mais qui peuvent faire sur des plus petites formes. On a pu le voir pour Xavier, justement, sur Nord, qui jouait le soir avec des très belles, une très belle mise en lumière et en image en arrière-plan. Et c'est vrai que c'est, je connaissais pas du tout. Et donc, c'est la cachette qui fait ça.
Oui, c'est ça.
Là, okay. Aujourd'hui, la cachette projette sur des écrans plats. Y a des technos qui avancent là pour pouvoir projeter sur des volumes.
D'accord.
Et du coup, de pouvoir tourner autour d'une projection avec des systèmes de cubes, etc. Eux, ils le font déjà à toute petite échelle. Ils créent des hologrammes comme ça avec la projection. Voilà. Et y a des technos. En gros, le côté technophile, il est, pour nous, s'il sert à quelque chose, à procurer une émotion, là, ça nous intéresse. Si c'est qu'une techno pour une techno, pour l'instant, on ne pourra pas l'utiliser.
Oui, et du coup, votre rayonnement, votre champ d'action, c'est quoi? C'est régional? C'est national? International?
Mondial? Intergalactique?
Justement, avec les reptiliens, vous en êtes où?
Notre dernière virée à Pluton était pas mal.
Ouais, c'était vraiment pas mal. Je trouve qu'ils ont bien aimé l'exposition. Ouais. Hein, c'est oui, plutôt bien reçu. Ouais. Ouais.
Vous avez fait des images de Pluton? Je n'ai pas encore vu.
En vrai, on les a postées il y a 6 mois, mais elles devraient arriver d'ici 35 ans, à peu près.
D'accord.
Voilà. Non, mais du coup, c'est surtout régional, ouais. En fait. On est beaucoup sur du local, donc autour de Rouen. Et après, on a aussi des résidences artistiques. On fait venir en fait, des artistes sur des territoires. Sur des territoires précis avec qui on travaille et puis avec qui on fait des liens en fait. Donc la dernière c'était à Danville où on a fait venir des graphistes qui sont venus travailler en fait avec.
Alors Danville c'est dans l'Eure et c'est très loin dans l'Eure.
Oh là, on connaît.
Très loin dans l'Eure.
Mais c'est très très loin dans l'Eure.
C'est déjà loin.
Il y a plus loin encore.
Il y a plus loin. Il y a Rosé sur
Villers.
J'habite dans l'Eure et je connais pas Danville.
Ah merde, il en restait un.
Ça doit être très très loin.
Je l'avais oublié celui-là.
Non mais voilà, du coup, on travaille à la fois en Seine-Maritime, dans l'Eure, et puis on a dernièrement, en avril dernier, on est allé à Villers-sur-Mer, grande expédition dans le Calvados, faire un festival, et puis en fait, on espère retravailler encore avec eux, et puis organiser des résidences artistiques un peu sur le territoire régional, puisqu'on travaille aussi avec la DRAC qui a un rayonnement régional.
Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des structures similaires à la vôtre un peu dans toutes les régions? J'imagine à Paris, mais.
Wallou.
C'est vrai?
Non, mais parce que la vision. À l'époque où j'avais été invité pour Back to the Game, j'avais expliqué que si j'avais créé Back to the Game avec mes camarades de l'époque, c'est parce qu'il n'y avait pas de structure équivalente, en tout cas. On connaît tous MO5.
Pas tous, mais.
Non, mais en tout cas, voilà, MO5 a fait des expos au Grand Palais, etc. Dans des grands musées, ils ont
et à Villers
également.
Ah oui. C'est un lieu, c'est
vraiment.
Ce lieu, faut
c'est un carrefour.
The place to be,
the place to be au mois d'avril. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a finalement peu de structures qui se créent, qui brassent autant de culture pop, qui excluent rien et qui s'interdisent rien non plus. Et qui permettent du coup d'associer les publics. Souvent, il va y avoir des structures, des studios par exemple. On a déjà bossé avec des studios indépendants qui ne font que du jeu vidéo et pur et dur, mais qui n'ont pas envie de faire le boulot de médiation. A contrario, on a pu travailler avec des artistes qui ne font que le travail de médiation. Enfin voilà, chacun a sa spécialité. Nous, on s'est interdit rien. On essaye de toucher à des choses sur lesquelles on maîtrise. On n'ira pas sur des trucs qu'on ne maîtrise pas. Et quand on ne maîtrise pas, on fait appel à d'autres. C'est ça aussi la force du réseau, c'est-à-dire que si on ne sait pas faire, eh ben on fait appel à d'autres.
D'accord. Et sinon, concrètement, si on...
Sur la formation.
alors si... lundi, je ne bosse pas.
Non, mais concrètement, si quelqu'un a un projet X et veut adhérer...
tout de suite Christophe.
Bon, Y, là. Un projet, si quelqu'un a un projet...
C'est des supports des amis. Hein.
Donc on adhère à l'association. Et après, comment ça se passe? Il y a des permanences? Il y a des gens qui sont là, je sais pas, du lundi au mardi, de telle heure à telle heure?
Ça, c'était le projet.
Le concret, ouais, quoi.
Ça, c'était le projet original. Aujourd'hui, Géraldine et Sylvain, qui sont du coup salariés de l'association, eux, sont tout le temps, quasiment tout le temps en déplacement. Ils sont un petit peu au bureau pour gérer deux, trois choses, mais ils sont beaucoup dehors.
D'accord.
Et les gens qui travaillent. Vous verriez leur bureau. ça, c'est les vrais gens qui travaillent. Après, on n'a pas aujourd'hui les moyens d'avoir une permanence pour accueillir l'ensemble des bénévoles. Les gens qui sont bénévoles à Pixel, ça leur permet d'accéder à toutes les expositions, voilà, tout ce qu'on peut proposer tout au long de l'année. Et après, il y a les deuxièmes adhérents qui sont les adhérents du coup créatifs, où là, effectivement, c'est des gens. Et là, on va pas les appeler adhérents, on va les appeler partenaires avec qui on va travailler sur un objet, d'accord, sur une expo, sur deux, sur douze. Géraldine parlait tout à l'heure de la cachette. Raphaël, qui est un des membres de la cachette, avant il était intéressé par ce qu'on faisait, il a bossé avec nous et maintenant il bosse beaucoup avec nous et on ne sait pas ce que l'avenir dira.
Après, au niveau des permanences, on essaie aussi d'avoir. On pourra pas dire du lundi au vendredi.
De telle heure à telle heure.
Voilà. Mais par contre, on essaie toujours de rencontrer les personnes qui sont intéressées. On répond aux mails et puis voilà,
d'abord c'est un contact par mail, je pense, à des gens qui seront nos auditeurs
et donc contact@pixel.org
et sur la page Facebook.
Et la page,
un taux de réactivité incroyable, c'est marqué.
Je ne sais pas qui gère cette page, mais c'est vraiment
elle est
ça, c'est bien. Vous n'avez pas répondu sur le projet de film de cul de...
si
on va, en réalité virtuelle 360,
évidemment en réalité virtuelle.
Non, il y a deux choses qu'on fait pas encore aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui, peut-être que
on s'interdit rien.
C'est le cul, le X,
il fait pas le coup,
tout ce qui va être démarche commerciale.
C'est important de le dire.
On a pu faire du nu. Certains ont pu faire du nu.
J'étais pas là.
Non, tu n'étais pas encore là.
T'étais drôle.
Sur des photos.
En fait, t'étais là, mais tu t'en rappelles pas.
Mais j'étais pas vraiment là.
T'étais drogué.
Ton corps était là, mais pas ton esprit.
Voilà, vous nous verrez pas, en tout cas, là, en début d'année, dans un centre commercial,
ni en fin d'année, d'ailleurs.
En fin d'année, on sait jamais, mais en tout cas, sur les 6 prochains mois, c'est sûr et certain, on ne verra pas dans un centre commercial. Et puis, on tourne pas non plus de publicité. On nous appelle pour tourner une pub, ça, on le fera pas. D'accord. Aujourd'hui.
Oui. En gros, vous avez compris le message, ami annonceur.
Ami annonceur, si
vous avez pas encore mis, vous avez pas encore mis le prix suffisant, voilà, c'est tout.
Il y a le salon de l'érotisme.
On a un stand V.
On va faire une seconde pause après la première chronique de Freddy. Je vais moi prendre la parole pour faire une rubrique Les fonds de tiroir avec le jingle qui va bien.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Donc je voulais aborder cette fois-ci donc quelque chose qui est relativement en lien avec ce qu'on aborde aujourd'hui. C'est l'émission Chroma de Karim Debbache.
C'est mon chouchou.
Ah bah écoute, donc je
c'est un gros con.
Comme par hasard.
Ah peut-être.
Non, je déconne, il est très sympa.
J'en sais rien, je ne le connais pas. Donc j'en avais parlé déjà il y a 2 ans sur mon blog, justement, Les fonds de tiroir, mais pour un autre projet qu'il animait, qui s'appelait Crost à l'époque. Donc Crost, c'était une...
T'as marché dedans ?
Crost, c'était une chronique cinéma donc, qui était présentée par Karim Debbache, donc en vidéo sur YouTube, enfin initialement sur jeuxvideo.com, puis ensuite sur YouTube. C'était des capsules vidéo de 10-15 minutes qui ont duré pendant 2 ans, je crois. Enfin, en tout cas, il y a eu 28 numéros. Donc c'est une chronique qui aborde les films qui sont inspirés, Crost, ça a inspiré, c'était les films qui étaient inspirés de jeux vidéo, que ce soit des adaptations littérales comme Silent Hill par exemple ou des choses de ce genre-là, ou en reprenant les codes. Autant dire qu'il y a quand même souvent des grosses daubes qui étaient présentées dans cette émission-là.
15%.
Voilà. Cela étant, l'intérêt des chroniques, c'était la mise en scène de Karim Debbache et de ses compères, donc qui sont Gilles Stella et Jérémy Morvan. Ce sont tous des passionnés de cinéma. Qui mettent tout en œuvre pour communiquer cette passion et qui arrivent régulièrement à apporter du positif, même dans les films a priori indéfendables. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à expliquer qu'il y a un intérêt, il y a toujours un petit quelque chose à retenir de ces films. Donc on y retrouve de l'humour, des textes qui sont très bien écrits, une énorme culture cinématographique, et notamment moi j'ai appris plein de termes sur les aspects techniques parce que c'est quelqu'un qui a un grand... Enfin, lui et ses équipes sont des grands connaisseurs de l'aspect technique cinématographique. Les analyses sont bien fouillées et étayées, et il y a aussi une grande part de subjectivité complètement assumée, hein, quand ils viennent dire que ce film-là, effectivement, objectivement, c'est de la merde, mais qu'ils l'adorent, parce qu'ils l'ont vu dans un certain contexte, parce que c'est une Madeleine de Proust, parce que toutes ces choses-là, enfin bref.
Parce que Jurassic Park.
Voilà, enfin... Il y a plein de...
Parce qu'on fait pas de mal à Steven.
Il y a plein de, il y a plein de critères exactement d'arguments aussi, aussi excellents que cela. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, Cross s'est terminé courant 2014, après 28 numéros. Ils sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube pour autant. Mais la fin de l'aventure Cross ne correspond pas forcément à un ras-le-bol ou un essoufflement de l'équipe. Au contraire, puisque fin 2015, il y a un an maintenant, Karim Debbache a annoncé le lancement d'une campagne de financement participatif sur Ulule pour un nouveau projet, Chroma, pour Chronique de cinéma, qui est chapeauté par Nesblog, un collectif de vidéastes auquel ils appartiennent, et Dailymotion. Donc c'est exclusivement diffusé sur Dailymotion.
Pour le moment.
Pour le moment.
Moi, ça rame au bureau.
Dailymotion.
On s'en fout.
Hein. Merde.
Non, mais,
non,
c'est
mais t'as raison de le dire, attends. C'est le moment de le dire, Freddy.
J'avais un coup de gueule que je défendrai tout à l'heure.
Je sais pas si tu vas parler du succès de la campagne, mais s'ils avaient misé là-dessus, ils auraient pas fait un deal.
Et justement, le financement a été un énorme succès, puisque le projet a été financé à 1030%. Oh là. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé 20 000 euros, ils en ont eu 206 000 en à peine une heure.
Ça va.
Donc nous, ça laisse rêver notre Tipeee, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, je pensais. On est passé à côté de quelque chose, je sais pas.
On avait demandé 5 000, on a eu 32.
C'est presque pareil.
Et donc, en janvier 2016, le premier épisode a été mis en ligne, donc il y a assez peu de temps finalement, il n'y a même pas une année. L'objectif d'un numéro par mois n'est pas vraiment atteint, puisqu'à ce jour, il y a 8 émissions qui sont en ligne, dont la dernière qui date de cette semaine, que je n'ai pas encore vue.
Qui est génial.
Qui est bien.
Oui, qui n'est pas trop mal.
J'essaierai de voir ça. Et donc, chaque émission est réalisée autour d'un film illustrant une thématique particulière. Donc, si on voit les premiers films, donc le premier, c'était Tout Troll, je sais plus comment il s'appelait.
Troll 2,
pardon, Tout Troll, n'importe
oui,
quoi.
Bah, ou alors, oui.
Je n'arrive même pas à me relire. Donc, c'était un épisode d'intro, il n'y a pas vraiment de thématique particulière, il présentait un petit peu les bases.
T'arrives pas à te relire sur un écran?
Non, j'ai fait des copier-coller et il y a des trucs qui sont inversés depuis tout à l'heure, donc j'ai mal copié mon truc.
Ils ont diffusé Troll 2, du coup, dans une projection spéciale aux formes des images, apparemment.
Dernièrement, là, c'est pas ça que j'ai vu.
Avec Chroma, ils ont lancé en fait une série de projections aux formes des images.
D'accord.
Avec vous aussi revivez des
panique,
mauvais films.
Panique cinéma, mais c'est un peu ça en fait.
Oui. Mais c'est vrai que quand on a vu le film, on le voit avec un autre filtre. Enfin, l'émission, pardon, on le voit avec un autre filtre. Le deuxième épisode était sur Rollerball, donc où ils expliquent un petit peu l'importance du montage. Highlander 2, donc l'importance de la couleur et du respect de la diégèse. Donc moi, c'est Karim Debbache qui m'a appris le terme diégèse, c'est-à-dire ce qui est interne au film, inhérent au film, c'est-à-dire que c'est dans l'univers du film. C'est-à-dire que nous, ça peut nous paraître extérieur, mais dans le film, c'est cohérent.
La même semaine, t'as appris diégèse et gigite.
C'est vrai.
Je ne sais pas lequel te servira le plus dans ta vie de bureau. Mais
c'est pas forcément simple. Donc, le film Signs, avec le regard et les différentes interprétations que peut avoir le spectateur.
Ou Signe, en français.
Ouais. Paranormal Activity, avec l'aspect found footage. Putain, j'en ai du mal. Putain, je bois que de l'eau en plus.
C'est Marius qui t'a écrit ton texte ou quoi?
Sinon,
il va falloir que je prenne
autre chose. Normal pour Paul.
Oui.
Mac et moi sur le placement de produit et justement les conséquences sur le film qui contient ce placement de produit et l'interprétation que peut avoir le spectateur sur ce type de film. Vidoc sur le premier film tourné entièrement en numérique au cinéma.
Cocorico.
Français en fait.
C'était nul ce film.
Et c'était nul.
Oui, mais Cocorico.
Ça pique un peu. Ouais,
mais tel qu'il le présente,
oui,
ça se montre aussi que
ils ont
vachement essuyé les plâtres à l'époque. Ce qui explique peut-être certaines choses.
Et
le
réalisateur est un gros prétentieux.
C'est intéressant.
C'est un mec qui venait du clip à la base, qui était un mec de la photo.
Ah, Pitoff.
Pitoff, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Il fait je suis un incompris. Voilà.
Et vous l'avez vu ce film-là?
C'est le Paul Naref du cinéma.
Ah, mais moi je l'ai vu
avec Guillaume Canet.
Je l'ai vu adolescent.
Depardieu.
Moi j'étais déjà vieille, mais il est sorti en 2000, 2001. 2001, ouais. J'ai vu aussi, non,
j'étais ado toujours.
T'es toujours un peu.
Moi, je connaissais la série, mais.
Et donc, celui de cette semaine, c'est Piège à Hong Kong. Donc, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas de quoi il traite, mais. sais nous disant dire un petit peu deux trois mots.
Tu sais nous en dire. Tu veux je n'en dise.
Vas-y, dis-nous en des trucs.
J'étais pas préparée à ça, mais.
Tu veux que j'en dise.
Non, mais en fait, déjà, il parle du cinéma hongkongais, en fait. Mm. Et il dit très bien, d'ailleurs, le nom du réalisateur, mais je suis incapable de le dire. C'est Tsu Ark. Moi, je dis ça, mais je pense que ça se dit pas comme ça. Et du coup, il parle du cinéma hongkongais et puis ce que ça a créé dans sa cinéphilie et dans la cinéphilie en général. Sur tous
les... l'exploitation qu'il y a eu derrière.
Voilà, c'est ça. Et puis aussi, le cinéma hongkongais aussi, ça a été assez suivi par les cinéphiles. À l'époque des vidéoclubs, on découvrait un peu ça aussi. Et puis une autre façon de faire du cinéma. Et cette façon de... comment dire, d'un peu briser les codes, en fait. Oui. Il le compare à la nouvelle vague française ou des choses comme ça, des choses qui paraissent peut-être chiantes.
Quand il le fait, ça va.
Et du coup, en fait, ça en commun, en fait, c'est de vouloir briser toutes ces barrières et ces conventions de studio un peu...
Et c'est un film avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, moi je vais remettre les choses sur terre tout de suite.
Il fallait dire des débuts.
Voilà.
Ça change tout là.
Non mais voilà.
Il y a tout un passage sur Jean-Claude Van Damme. Ouais.
Parce que Karim Debbache est un amoureux de Jean-Claude Van Damme.
Mais c'est intéressant d'avoir justement cette approche qui est faite sur le ton humoristique, de l'auto-parodie aussi, parce qu'ils se moquent eux-mêmes de ce qu'ils adorent. Ils ne se prennent pas au sérieux quand ils présentent les choses. Ils disent pas, mais c'est que vous avez rien compris au truc. C'est qu'ils disent, on se rend bien compte que c'est des fois un peu ridicule. Mais cela étant, ça nous a bercé et ça fait aussi le cinéma actuel des gens qui ont été nourris à cette culture-là, à des choses. Enfin, on le revoit avec des films, enfin, ou des séries comme Delphine a pu présenter Stranger Things. Ah. C'est des mecs qui ont été bercés. Au Goonies, IT, enfin tout ce qui est à peu près de notre génération. Toi, t'as peut-être un petit peu plus jeune, Géraldine.
Allez, bing.
Non, plus jeune, c'est pas une critique.
Et bam, t'es jeune.
T'as quel âge?
Bam, t'es jeune.
J'ai 27 ans.
Oh oui, bien plus jeune.
Bien plus jeune, oh là là.
Enfin, je plus que Christophe. Mais
ça va, j'ai un grand frère.
D'accord.
Il pourrait nous péter la gueule si on t'embête ou pas?
Peut-être.
Donc voilà un petit peu les différentes thématiques qui peuvent exister. Les différences par rapport à Crost que j'évoquais au début, donc si on peut comparer, ce qui ne change pas, c'est l'équipe, puisqu'on retrouve les trois mêmes, Jérémy, Karim et Gilles. L'approche qui reste humoristique, tout en restant très instructif, notamment sur la technique et les codes, comme tu viens de l'évoquer encore. Ce qui change pas mal, c'est le format qui est plus long, puisqu'on était plutôt dans les 10-15 minutes, maintenant on est plutôt dans les 20 minutes et un peu plus. C'est plus produit, la réalisation est quand même un peu plus professionnelle entre guillemets. Il y a beaucoup plus de mise en scène, notamment dans les intros. Il y a des intros qui durent parfois plusieurs minutes pour,
qui ne servent pas forcément à grand chose.
Mais ça met dans, ça contextualise en fait.
Ah oui, c'est des intros pour se faire plaisir. Tout à l'heure tu disais, ils se prennent pas au sérieux, ils ont envie de se faire plaisir, ils font des intros qui tabassent, qui ne servent à rien. Mais comme des plans dans les films de Tarantino.
Est-ce qu'on a besoin que ça serve à quelque chose?
Des fois ça sert à rien, c'est ça. C'est juste. Mais se sont fait plaisir.
Ça a une belle, enfin voilà, ça fait une belle facture au truc qui est, qui donne des émissions de grande qualité en fait. Et puis en termes de thématique, ça a changé puisque c'est plus uniquement limité à l'univers des jeux vidéo et dérivés. Ils ont voulu casser, eux, c'est pas les codes, ils ont voulu casser les frontières et se dire, nous on veut parler de ce qui nous intéresse. Quel que soit le cinéma, c'est de Hong Kong, on a envie de défendre Vidocq sur certains points malgré tous ses défauts, et on va le faire. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, etc. Et en gros, ils parlent de ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc vous connaissez tous les deux. Je ne sais pas si autour de la table, il y a des gens qui connaissaient cette émission ou qu'on a entendu
parler. Je n'ai pas écouté ce que tu as dit.
Plaît-il?
Je montrais une photo à Delphine.
Nous, on a bu tes paroles.
Il montrait ses photos de vacances et du coup...
T'as montré le tournage de Film X
avec Christophe.
Ah ouais, ouais.
En stop motion. C'était long.
Et d'ailleurs, c'est bien pratique le stop motion.
Faut tenir la distance.
Ça permet de se reposer entre chaque photo.
Moi qui pensais que Freddy c'était le mec un peu sérieux, un peu la valeur intellectuelle du truc.
Je parlais sérieusement à Starlet.
Donc, vous ne connaissez pas. Donc, tu as déjà dû voir quelques émissions peut-être
oui.
Mais sans y prêter attention. Je sais pas.
Autant que maintenant.
Oui.
C'est pas grave, tu vas toutes les revoir.
Donc, moi, j'ai écouté, je ne connaissais pas.
Tu connaissais pas. Et est-ce que ça t'intéresse? T'as le droit de dire non. J'ai aucun scrupule.
Certains films que tu as cités m'intéressent, mais pas tous les films.
Lesquels, par exemple? Est-ce que des fois, c'est peut-être par le film que... Moi, je sais que les croches, je ne les ai pas toutes vues. C'est les films qui m'ont plutôt intéressé.
Paranormal Activity, ça m'intéresse. Parce que, je ne sais pas, je l'ai vu ouais. et que ça m'a paru un petit peu...
T'avais Mac et moi, Signs, donc du coup, Highlander 2, Rollerball, Troll 2.
Rollerball, ouais.
Moi, je conseille, pour ceux qui... Le Signe, avec Mel Gibson. Ouais. Un film que moi, j'ai vu, je n'avais pas du tout lu l'approche
qui, présente,
qui présentait. Ouais. Et j'ai eu envie de le revoir, du coup. Parce que c'est peut-être le seul, parce que Troll 2, il ne faut pas déconner quand même.
Mais quand même.
Tu veux parler de
Two Troll
Tu
vois que j'ai écouté.
Two Troll. Alors, Two Troll m'intéresse.
C'est là que je me rends compte qu'en fait, je suis dans un couloir quand je lis, en fait. Je ne fais pas attention, je suis dans moi.
Mais Signe, c'est vrai qu'il a une lecture de Signe, enfin, un peu comme 2001, qu'on peut revoir 12 fois, parce qu'en fonction de ce qu'on va lire... Oui. C'était pour ma collègue
que Delphine,
de droite.
Elle a une fois, elle peut pas déjà. Donc.
Mais c'est ça le souci avec 2001, c'est que déjà c'est très chiant. Mais qu'il faut lire des trucs c'est pour le revoir après.
Oui.
Et en vrai, c'est mieux. Et bien, Signe, finalement, c'était pas
si. Je pense qu'il faut effectivement savoir à quoi s'attendre.
Voilà.
Tu peux pas te mettre devant ça sans qu'on t'explique. Oui, non, mais tu m'avais rien expliqué du tout. Il me colle devant ça en me disant ça va être génial.
Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est, non.
Tu ça ne peut pas être génial. Ça n'a pas été génial. Ça, en fait.
On m'a fait pareil quand on m'a donné l'album de Ken Kiyou.
Elle vous conchit.
T'attends à rien, tu seras pas déçu.
C'est méchant.
C'est gratuit.
C'est pas gentil, c'est méchant.
Le prêtre au cathé, il me disait la même chose et c'était pas forcément.
Si les méchants, c'est pas très gentil.
Donc, si. Enfin, justement.
Et sinon, Karim Debbache, c'est quand même la personne qui nous a fait découvrir Scott Pilgrim versus The World. Qu'on a pu, du coup, organiser.
Ça rebondit justement, on va pouvoir revenir sur Pixel, puisque vous avez repris. Vous avez. Diffusé il y a maintenant un mois à peu près.
C'était septembre.
Déjà un mois.
En compagnie de Rafik Djoumi, qui est aussi notre chouchou.
En compagnie du boss de cette table.
Et donc, et moi aussi j'étais là. C'est vrai, j'étais là. Rafik Djoumi, donc qui est, voilà, comme quoi. Le monde est petit. Christophe nous l'avait présenté. Tu nous avais présenté Beats, je crois, dans un des premiers épisodes de l'Anthropode.
C'était une de mes premières chroniques de l'Anthropode.
Entre deux Donatartes.
Mais c'est vrai que c'était.
Entre deux parts.
Et moi, depuis que tu m'as fait
découvrir ça. Vous êtes pire
que
les quatre autres tarés qui sont pas là. Hein.
Finalement, ouais.
Et finalement, à deux.
Un peu, quoi. Attends.
Et moi, depuis que tu m'as fait découvrir ça, je regarde toutes les semaines Beats et je trouve ça génial. Alors moi, ça, c'est un peu dans le même esprit.
Du coup, j'ai un peu abandonné parce que ça. C'est très.
C'est tous les mercredis, oui, mais ça, 10 minutes.
Ça demande un petit peu d'assiduité, de temps, tout ça.
Sur YouTube. Et c'est sur YouTube. Hein.
Et j'ai décroché.
Attends, les mecs, il est fonctionnaire quand même. Hein.
Peut-être que YouTube est bloqué au boulot. YouTube est peut-être bloqué au boulot.
Parce que ça
tout est bloqué
minutes.
Au boulot.
Ouais, c'est sur Arte Créative aussi.
Même le travail. C'est terrible.
Voilà. C'est ça le problème.
Mais en tout cas, Beats, juste pour revenir deux mots dessus, c'est exactement l'essence de Pixel. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Beats assez tard. C'est Géraldine qui me l'a fait découvrir avec Rafik, etc. Et finalement, quand on s'est rendu compte de si on pouvait définir Pixel, c'est exactement ça. C'est pas geek. Enfin, un petit peu, parce que
c'est très pop.
C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la culture des gens sans y jeter un regard autant critique qu'on pourrait le faire sur une œuvre classique.
Il y a un côté, vous l'avez peut-être pas encore évoqué, mais c'est le côté médiation, en fait. C'est vrai, c'est le côté mettre à disposition des gens des choses dont ils n'ont pas forcément connaissance ou conscience des fois.
Mais c'est
de
faites.
Faire relier un peu. Mais enfin, c'est pour ça qu'on se retrouve à ce micro ce soir. Mais qu'est-ce qui nous arrive?
Oh là là.
Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'idée, c'est de créer du lien entre des univers qui peuvent ne pas forcément discuter tout en étant des fois assez proches, en fait. Enfin, dans Beats, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, enfin, que ce soit la sociologie, la culture, plein de choses. Et l'univers du numérique qui parfois... Et même dans la culture, des fois, il y a des choses qui sont assez...
cloisonnées,
exactement, chercher le terme. Et que finalement... beaucoup de frontières qui sont très perméables, en fait.
Et donc aussi ne s'interdisent rien. Et voilà, ils traitent de tous les épisodes. Donc, moi aussi je reconseille Beats. Et encore aujourd'hui, c'est toujours bien.
Nous non plus, on en a quand même parlé de cul.
Voilà, Christophe il nous parle de Beats et de cul, donc c'est quand même ça va être sa nouvelle rubrique.
Des Beats et du cul. Je veux breveter cette rubrique.
Ça pourrait être un nom de rubrique pour Didouille.
Ouais, c'est ça.
Des bits et du cul. Bisous, Didouille.
Freddy va devoir nous. nous quitter pas trop tard, donc on va faire tout de suite le quiz.
Donc ma rubrique, elle t'intéresse pas, t'en as rien à foutre.
Mais si, mais je la réécouterai avec bonheur, plaisir et intérêt.
C'est ça. Ouais.
Les invités ont le droit de jouer.
Vas-y.
Et puis voilà.
Alors, je voudrais juste donner un petit avertissement. Paul devient fou quand il y a des quiz. Voilà.
Mais oui, on voit qu'il est en train de se transformer.
Je vous aurais prévenu.
C'est-à-dire. Il devient tout vert, son t-shirt devient trop petit.
Nico, il est habitué, je suis pareil.
Bah, ce que je vous propose, comme la première partie, c'est un quiz geek.
Je vous rappelle que c'est un jeu.
On fera appel à vous si les trois compères ne savent pas répondre.
Ah oui, d'accord.
Ce qui est très probable. Hein.
Je mets quand même un joker. Je ne connais pas toutes les réponses de culture geek. Voilà.
Est-ce qu'on est un joker chacun? Est-ce qu'il faut choisir son joker?
Il n'y a pas d'amis à appeler. Pas pouvoir répondre à toutes tes questions non plus.
Est-ce qu'on peut se concerter?
On y va. Vous avez compris? Cinq premières questions sur l'univers geek. Et 5 questions de l'actu générale, dont la dernière sera réservée à nos auditeurs qui pourront gagner un très beau cadeau cette semaine, ce mois-ci.
Tu dis pas ce que c'est?
Bah, je le dirai tout à l'heure.
Ok.
On y va, première question.
Vas-y.
Que signifie MOBA? M-O-B-A.
Tic-tac, tic-tac.
Voilà, vous savez pas forcément, donc vous pouvez poser des questions pour essayer de trouver la réponse.
Ah, est-ce que c'est un rapport avec la pêche Melba?
C'est les jeux en arène, mais je sais plus comment ça s'appelle l'acronyme en fait.
Donc c'est une abréviation.
Je pense que Nico est vraiment sur la...
Multiplayer, online, truc, arena.
Oui, mais bravo.
Battle
Arena, voilà.
Multiplayer, online, battle arena.
Oh yeah.
Voilà.
Donc c'était évidemment des jeux vidéo, tu connaissais pas.
C'est le jeu le plus... Alors si, c'est super important, c'est le jeu le plus...
les plus joués.
Enfin, le League of Legends pour le premier, le plus joué sur la planète, mais aussi celui ici où il y a le plus d'argent. Canal+ a acheté la semaine dernière les droits de diffusion et de l'organisation des tournois
d'e-sport
de MOBA, quoi. Et donc, en gros, sur le canal Football Club ou sur les chaînes sport de Canal, aujourd'hui, il y a une rubrique e-sport avec des journalistes, avec les moyens de la télé.
Et des grosses sommes en jeu, hein, quand même.
Mais c'est... très, très grosses sommes en jeu.
Je savais, évidemment, c'est pour ça que j'avais posé cette question.
C'est quand même pas la taille qui compte.
Allez, deuxième question.
On parle de Vincent Bolloré.
Évidemment, une question que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre.
Il n'y en a pas.
Au début, écoutez bien, c'est assez subtil. Au début du mois d'octobre,
Franck Michael.
Et alors qu'on la pensait disparue, elle a fait son grand retour. De quoi parle-t-on?
La NES.
Carlos?
Non. la Carlos, tu veux dire?
On parlait justement de Françoise Dolto dans la voiture.
On s'est dit qu'elle n'a pas tout réussi.
Elle a eu Carlos.
Vous êtes dur quand même.
Il y a Papayou quand même.
Bisous.
Je répète ma question peut-être.
Ouais,
au début du mois d'octobre, et alors qu'on la pensait disparue à tout jamais, elle a fait son grand retour. De quoi parle-t-on? Essayez d'aller sur quelque
chose. Une console de jeu?
Non.
Non, à son mois de novembre.
Une activité.
Amanda Lear?
Non, justement, elle a pris sa retraite. Là, elle a vraiment disparu.
Est-ce que
Vas-y,
ça,
répète,
c'est la
dit
meilleure
quoi
question du monde.
C'est un nom chinois.
C'est un produit.
C'est un nom hongkongais.
Un produit non.
Une technologie.
Pas...
C'est une forme de quelque chose.
Un concept.
En fait.
Plutôt
un concept.
Une technologie, si on
ça
veut.
Ça va pas être la cassette encore une fois.
Non, c'est pas ça.
le Minitel.
Non. Là. C'est pas un objet.
C'est pas un objet. C'est une forme artistique.
Non.
Non.
Ça commence par quelle lettre? Je crois que je vais
dire.
Ça commence par un C.
C'est la cassette.
Non, c'est pas la cassette,
c'est
pas la console.
C'est pas là.
Alors qu'on la croyait, tu disais.
Oui. Mais on l'appelle pas là. Ah. Alors
c'est technologique?
Oui et non, mais c'est pas comme ça que vous allez trouver, je pense.
Ah bon?
Du coup, j'invite nos invités.
C'est un rapport. T'invites nos invités.
Ça, c'est sympa quand même.
Est-ce que c'est un rapport avec des choses qu'on a déjà dites au cours de cette émission?
Je ne crois pas dans ma mémoire.
On a déjà pratiqué cette activité.
Je suis
c'est
sûr.
Des bits.
Je suis sûr qu'autour de la table, nous sommes plus
à
de la
fac,
moitié
par
à
exemple.
Avoir pratiqué. C'est pas le mot, mais à avoir.
En tout cas,
utilisé.
C'est un service.
Oui, on peut dire ça.
C'est une chat.
Caramel.
Caramel. Putain,
bravo Nico.
Racheté par une boîte allemande.
Oui, je.
Bravo.
Tu le savais.
Entendu dans je sais plus quoi cette semaine.
T'avais la réponse, mais t'as préféré poser des questions.
Non,
c'est chevalier, écoute.
C'est ouais. Caramel, ouais.
Caramel.
Ah, moi, c'était.
Comment tu t'appelais?
C'était les
chats. 66.
Moi, je me rappelais pas.
T'as pécho un peu.
Ça devait être narguilé comme
oh, grave. J'ai grave pécho sur Caramel.
Ouais, moi aussi. Ouais.
J'ai, alors, j'ai pas pécho, mais j'aurais bien aimé avec une fan de Buffy. Hein, c'était dire quand même l'époque.
Mais à l'époque, on a passé du temps sur Caramel. Oh, quand ton frangin était en Espagne et tout.
Quand la connexion voulait bien marcher.
On ne fait pas que draguer.
C'est là-dessus que t'as commencé tes blind tests.
Mais oui,
non, quand on faisait les blind tests sur Caramel, comment ça pèse.
Je me souvenais plus.
Mais... Avant Skype, on faisait les blind tests sur Caramel. Freddy,
alors, celui qui avait la meilleure connexion gagnait.
C'était le mardi soir.
Des blind tests sur Caramel.
Ça nous rajeunit pas, il y a 15-20 ans ça.
C'était le quiz d'il y a 15 ans quoi.
Et après, on se dit pas geek, bah yon.
On y va, troisième question. Ce service lancé en 2013 va déjà fermer. On l'a appris cette
semaine.
Vine.
Ouais. Point Starlet.
Mon premier de 2016.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une plateforme de vidéos courtes, on l'a dit, bouffée par Instagram et Snapchat. Snapchat hein, c'est ça.
Utilisé, alors c'est les jeunes qui m'ont dit ça parce que j'ai une autre activité. Moi, je suis bénévole à
Je suis vieux.
Je suis vieux. Mon autre
t'as un vrai travail. Non,
j'en ai un.
Moi, j'ai grandi avec E.T. et les Goonies.
Voilà. Et du coup, les jeunes me disaient que Vine, c'est une plateforme de vidéos humoristiques. En gros, il n'y a que des humoristes qui se sont emparés de Vine pour faire des sketchs de 6 secondes. Et finalement, ils ne retrouvent que ça. Il y a plein d'humoristes qui se sont lancés là-dessus, des youtubeurs, pour faire des sketchs de 6 secondes. Moi, j'ai découvert ça.
J'ai jamais utilisé Vine.
Et ben, on est trop
j'ai beaucoup regardé, mais
je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment une question de génération.
Allez, quatrième question.
Allons-y.
Elle a été créée en édition limitée à l'occasion des 20 ans de la franchise Pokémon. Il vous en coûtera 2000 euros pour l'acquérir. Oh, de quoi parle-t-on?
C'est une console Nintendo
Non.
Non.
Une manette.
Moi, je sais.
Alors,
je laisse
une Pokéball. Une Pokéball.
Non.
Une voiture.
Non. 2000 euros.
2000 euros.
Ah, 2000 euros, j'ai pas entendu.
Une pardon. Super 5 Pokémon.
Le Pokétrain.
Le Pokétrain.
C'est un objet technique qui permet de jouer.
C'est un objet.
Est-ce que c'est pour jouer?
Ouais, à 2000 balles, tu la sortiras. Voilà. Tu joueras pas avec.
Une collection d'insectes.
Il y a un mot intéressant dans ce qu'elle dit.
Une collection. Ou insectes.
ou deux.
Deux.
Ouais, c'est deux. D'apostrophe.
C'est quelque chose de collection, du coup.
Ah, c'est la collection des figurines, en fait.
Non. C'est vraiment un objet particulier.
Et de collection.
Toi, tu sais, toi, Paul. Sais,
complètement. Il vous en coûtera 2000 euros pour l'acquérir. Ouais. Elle a été créée en édition limitée.
C'est une figurine Pokémon.
C'est un livre, en fait.
Un
recueil.
Le chef est pas loin.
Mais il a rien dit.
Il a dit quelque chose, mais il s'en est pas rendu compte.
Une statue Pikachu.
Non. Par contre, ça a rapport avec Pikachu. Je me trompe pas.
C'est à l'origine même du jeu, du phénomène Pokémon.
Ça va avec le jeu. C'est sorti avant le dessin animé, il est sorti après.
Une carte.
Comment?
Une carte de collection Pikachu. Alors, carte.
Je veux une précision quand même sur cette réponse.
La carte originale de Pikachu qui a été remasterisée.
Non, allez-y, volez-lui le point.
Bah non, mais là, je voudrais bien. Mais...
En édition limitée, elle en coûte 2000 euros.
Ouais. Alors, c'est une carte.
Une carte Pikachu de
son acte de naissance.
Elle a quelque chose en particulier.
Ah oui, elle a une particularité.
Elle change de lumière et tout ça quand tu la bouges.
Ah oui, mais ça, c'est pas
ça vaut bien 2000 euros. Ça.
Tous ceux qui ont des enfants, voilà. Non,
bah non, mais on a des enfants.
Bah voilà, donc c'est pas particulier. Ça vaut pas 2000 euros.
Non.
Ou alors sinon, tu les vends, tes enfants.
Une carte,
qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme particularité pour valoir 2000 euros?
Bah, c'est la toute première.
Non. Par contre, Pikachu est gros et obèse. Pour
c'est pas Pikachu.
Elle est plaquée or.
Oui. Bonne réponse de Christophe.
Oh, non. C'est le lingot Pikachu, quoi.
Une carte en or Pikachu, c'est au célèbre bijoutier japonais Ginza Tanaka que nous devons cette création.
Tu parles mieux japonais qu'anglais, en fait.
Absolument. Je viens de m'en rendre compte.
Ginza Tanaka.
Allez,
c'est ça. Les mecs, ils sont toujours en colère, les japonais. Ginza Tanaka.
Cinquième question.
Oui.
Pour Paul, Ginza Tanaka.
C'est une question. Pardon. Une question d'actu, mais aussi une question d'actu geek. Qui a fait rire la twittosphère cette semaine en postant le message suivant?
Putain, j'ai du Twitter.
Bonjour les gamers, bonjour Twitter.
Oui, Dupont-Aignan.
Nicolas Dupont-Aignan, bienvenue.
Aujourd'hui,
Nico.
Oui. Hein.
Les twittos,
c'était hier.
Il a
dit bonjour les gamers, bonjour Twitter. Je vois enfin à travers vos yeux et j'ai hâte de vous rencontrer demain. Wow. Hâte. Paris Games Week.
Du Pont-Aignan à la Paris Games
Week. Le mec, il
serait
peut-être
accompagné d'une belle photo de lui avec un
casque en selfie.
C'est un de mes préférés.
Nous, on a Laurent Genesley à la Paris Games Week ce week-end. C'est notre collègue du Courtivore.
Qui est parti faire un truc. Parce que voilà, moi, j'ai des raisons personnelles de ne pas aller à ce genre de rendez-vous. Je ne fais pas les magasins. Du Pont-Aignan, je ne l'avais pas vu.
Je l'ai vu. Justement, je voulais en parler tout à l'heure. Donc, on va...
Très drôle la photo.
On peut en parler tout de suite.
Bonjour Twitter.
Salut les kids.
Bonjour les gamers.
Bonjour
les gamers. Bonjour Twitter.
Il s'est fait un peu pourrir. Hein.
Bah oui.
Mais as-tu vu aussi c'est pas pour faire de la politique, mais Florian Philippot sur le Pac-Man.
Oui, j'ai vu. Ouais.
Qui joue avec les deux sticks alors que c'est fait pour jouer à deux joueurs.
Génial.
Et les gens disent pourquoi il joue avec les deux sticks en même temps.
Il est quel âge, Florian ?
Je sais pas. Florian, tu le connais bien ? Flo ? Flo ? Je sais pas. Mais...
Nico et Flo sont sur un bateau.
Il a 40 balais. Enfin, il a joué à Pac-Man.
Ou pas.
Ou pas.
On y va, on poursuit. On poursuit avec les questions d'actu. Et là, nos invités peuvent jouer.
On a le droit.
Qui est
la mère de Géraldine?
C'est Nico qui m'a écrit mes textes. Hein. Qui est l'égérie de numéro 5, l'eau de Chanel?
Avec c'est la fille de Johnny Depp.
Qui s'appelle
Lily Rose.
Lily
Depp.
Rose.
Bien vu, point Nico.
Qui est anorexique, j'ai un point bonus.
Il est même là où on l'attend
comme
pas,
tout
c'est
monde.
Nico. Hein.
T'as vu un peu?
Non, mais elle est vraiment fait, elle fait peur.
Ah ouais, ouais.
Est-ce qu'elle fait aussi peur que. Marie-Kate Olsen.
Je sais pas.
Elle fait peur, elle.
Marie-Kate Olsen.
C'est jumelle Olsen.
Jumelle de la fête à la maison.
Elles font toutes les deux peur, en fait.
C'est bizarre comment tu le dis.
Marie-Kate.
Genre, il y a un
prénom. Elle l'avait dit pour que Paul le comprenne.
Non, il y a Ashley et Marie-Kate.
Ah,
Ashley, l'autre.
C'est les deux.
Mais elles font pas du porn.
Alors ça, vous demandez à
Christophe. Est-ce qu'elles font du porn?
Moi, j'étais arrêté sur le.
Est-ce qu'elles font partie de ton groupe d'amis?
Parce qu'après la fête à la maison.
Non, mais on peut essayer de se renseigner.
Elles ont déjà fait la fête à ta maison ou...
Mon Dieu, le champ des possibles.
Elles ont, c'est pas les jumelles anorexiques. Hein, ouais. En fait, hein.
Elles sont faire la tronche.
Marc, il va être content, je pense.
Allez, question suivante.
Oui, Fred.
Mais là, elles font pas peur.
Sale semaine pour les hypochondriaques. Après les couches Pampers qui contiendraient des traces de produits classés cancérogènes, on apprend qu'un autre produit de consommation contiendrait des nanoparticules.
Les céréales.
De quel produit parle-t-on?
Céréales, non?
De l'amande.
Nanoparticules.
On n'a pas écouté, on regardait les photos de Marie-Kate.
C'est trop tard.
Mais j'ai regardé Marie-Kate.
Elle fait peur.
Après les couches... Elles sont passées de 10 ans à 50 ans, les meufs. Pardon.
Après les couches Pampers qui contiendraient des traces de produits classés cancérogènes, on apprend qu'un autre produit de consommation contiendrait des nanoparticules.
C'est pas dans c'est des produits produit. Cosmétiques
non.
Les alimentations hygiéniques.
Non.
Alimentation.
Les nanoparticules, c'est
alimentation,
des trucs électroniques.
Oui.
Alimentation, ouais. Enfin, c'est de la high-tech, ouais, mais...
Oui.
Genre, c'est de la viande, des légumes, mon cul, c'est du poulet, ou...
Tu reprends ma vanne que je t'ai mise sur ton mur Facebook.
Tu m'as mis ça, quoi.
Non, c'est
il
pas
t'a rien mis, non, il t'a rien...
Oh, 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 oh.
Mais qu'est-ce que fait, t'as mis?
Ça va vous calmer, là?
Qu'est-ce que tu m'as mis dans le poulet?
Dans le croupion.
Mais dis donc...
Voilà, bah t'es obligé de mettre explicit lyrics pour iTunes.
Bravo, bravo. Et pourtant,
de
c'est
quel,
bien.
De quel produit de consommation parle-t-on?
On n'utilise pas assez ce mot d'ailleurs.
C'est vrai, attends.
De quel produit de consommation?
Donc, est-ce que c'est de la viande, c'est des légumes, c'est mon
cuisine? Est-ce qu'on mange?
Non.
Est-ce qu'on en mange?
On en mange, oui.
Est-ce qu'on en a à cette table?
Des céréales.
Alors c'est très audio.
Mais on en a déjà eu.
C'est super audio ça.
Des bonbons.
Des bonbons. Le
ah,
point
mais oui.
Pour Nico.
Mais pourquoi
mais
tu es toujours bon
fort,
toi,
le chef.
Ouais.
Bah parce que c'est pas dur ce qu'on a à cette table, c'est ou du salé ou des bonbons.
Ouais. Ah, c'est grâce à ça
des
que t'as
bonbons
trouvé.
Bonbons avec des nanos.
Des nanoparticules.
Ah, ouais.
C'est
pas.
C'est Haribo
ça,
ou...
Ouais, ça concerne
tu
tous
balances,
les bonbons.
Ouais.
Putain, ah, ça balance ici. Hein.
Et, ouais,
c'est engagé l'entreprise.
Élise Lucet,
exactement.
Qui peut-on baptiser en ce moment dans le parc national des Pyrénées?
Des ours?
Non.
Un cerf?
Non.
Qui? La mère à Gerline.
Qui?
Une biche?
Non.
Non mais pourquoi un animal? C'est un
animal? Allô,
c'est
allô,
un
allô,
animal.
Allô.
C'est un animal, non.
La mère de Paul?
Ça
c'est
marche
la
aussi.
C'est la mère noire.
C'est vrai que c'est... Ah putain, on l'a pas ce jingle-là, faut qu'on le trouve.
Qui peut-on baptiser en ce moment dans le parc national des Pyrénées?
Ça, je suis vraiment étonnée que ce soit pas un ours.
Moi, je suis super étonnée que ce soit pas un ours.
T'es sûr que t'as bien lu ta news?
Un orignal?
Non.
Un orignal.
Un bear.
Est-ce que c'est...
Quel bilingue.
On voit le... c'est, est-ce que c'est un... voilà. Il a dit un oiseau, non?
Non, non, non. Parc national des Pyrénées.
Bah oui.
Un mouton.
Il y a un indice.
Un chamois.
Non.
Un chamois ou
un éleveur.
Un bouquetin.
Un bouquetin.
C'est vrai.
Oh, oh, le salaud.
C'est un carnage. Évidemment, un bouquetin.
C'était pourtant évident.
C'était évidemment. Tellement évident, oui, effectivement.
Relâché sur la commune de Gavarnie-Gèdre. On salue nos auditeurs de Gavarnie-Gèdre. Les noms doivent comporter deux syllabes. Vous pouvez jouer sur la page Facebook. Enfin, pas jouer d'ailleurs. Vous pouvez donner vos propositions sur la page Facebook du Parc National des Pyrénées.
Est-ce qu'on peut saluer aussi nos auditeurs de Biville-la-Baignarde?
Ah oui, mais tu connais des gens de là-bas?
Et nous, on en connaît
Sylvain
un.
Villeray.
Sylvain Villeray. On balance.
Ensuite, on balance
nous
parce
aussi,
que c'est engagé.
N'a qu'à bien se tenir.
C'est engagé l'entrepôt. Voilà,
nous, on a des gens
le
qui habitent à Biville
à côté de
Baignarde.
Moi, il habite Biville la Baignarde.
C'est vrai.
Personne habitait là.
Non, ils sont deux.
Est-ce et qu'on peut saluer nos auditeurs de Touffreville, la Corbeline
et de Tourigny-Fouillard
et de Roseraie.
Roseraie.
Ah merde. Quatrième question de la partie actu.
Vas-y.
Qu'a décidé de faire le président vénézuélien Maduro?
Je sais, tuer les dealers.
Non. Alors qu'il fait face à une grève sans précédent. Grève générale.
Tuer les grévistes? Non.
Faire une
Pourtant,
une Thatcher.
C'est pas con, ça.
Bah, une
c'est
Thatcher.
Pas con, ça. Qu'est-ce que c'est?
Non, Margaret
bah, Thatcher. Il a augmenté l'inflation à mort.
Elle avait affamé des...
C'est ça, non?
Non.
Il fait venir l'armée.
J'ai vu que l'inflation augmentait de plus de 400%, ah, je sais oui. pas quoi.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dévalué sa monnaie?
Non.
Bon, c'est triste comme réponse.
Ouais, mais... Freddy, c'est pas un mec marrant.
Mais Nico est super triste.
Ouais, mais là, oui, il a procédé à des réformes structurantes dans son pays. À
Attends,
part
le
de...
mec est carrément calé sur les bouquetins, il peut pas être sympa. Quoi. Le mec, il est pas fun et cool, alors désolé. Mais...
Il a des potes bouquetins. Quoi.
Monde de cons.
Alors, qu'a décidé de faire de le Noël, président on... vénézuélien Maduro alors qu'il fait face à une grève sans précédent? Et Nicole l'a dit, une inflation de 475% en 2016.
Alors, je suis désolée, ça fait deux fois que tu l'as dit et j'ai toujours pas écouté la question.
Maduro.
Maduro, vas-y.
Qu'a décidé de faire le
Il
président vénézuélien alors qu'il fait face à une grève sans précédent?
Il rend tout gratuit.
Non. Sachant que Nicole l'a dit.
Il a laissé les carburants.
J'ai l'impression que c'est un indice important, ça fait 4 fois que tu le dis.
Une inflation
Nicole l'a dit en tout
qui
cas.
Qui atteint 475%
en 2016. Qui l'a dit?
Qui l'a dit?
Et pourrait grimper à 1660% en 2017.
Sans déconner, alors attends.
Quelle mesure on peut prendre dans ces cas-là?
Ça sent la mesure à la con.
Pas du
non
tout.
Non, pas non, du tout. Non, tu penses que. Ah,
ça a l'air d'être une bonne solution, mais évidemment qu'elle est très loin d'être suffisante quand on voit les chiffres de cette inflation. Quoi.
Stériliser sa population.
Non.
Non, mais tout ce qui est rigolo.
Il veut pas en entendre parler, le mec.
Franchement, il est pas fun et cool. Hein.
Le mec, jamais il a des rats, ça, ça c'est clair. Alors, il a pas les chiens d'euros. Hein.
Pas le temps de niaiser. Là.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais... C'est un truc économique.
Oui, 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 oui.
Par triste. Rapport à des emplois, à l'administration.
Il a viré tous les fonctionnaires.
Non.
Il a embauché des fonctionnaires.
Non plus. Mais on est sur la bonne piste.
Il en a viré, il en a embauché.
Il a fait travailler la poste.
Oh, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il partage le salaire des fonctionnaires.
Non.
Il donne son argent, il rend son argent.
Il leur a donné du travail.
Non.
Il a embauché tout le monde.
Non.
Il nationalise des choses.
Non, non.
Il nationalise, mais il privatise.
Non.
T'en as pas un autre?
Il
monopolise.
Il vend aux Chinois. Il vend aux Chinois son économie.
Il a décidé, je vous donne un indice qui va vous donner
merci.
Vraiment la solution.
Nicole l'a dit.
Il a décidé de le relever de 40%.
Le salaire. Le SMIC.
Le SMIC. Le salaire minimum. Le point pour Paul.
Waouh.
Vraiment, il faut vous donner la moitié de la réponse.
Allez, le pauvre, c'est sa faute.
Tes questions à con là.
Merde.
Non, le Vénula,
dernière question, il s'agit d'une question poditeur. Je vous demanderai
donc
c'est pas à nous de répondre hors
de
ligne.
Fermez vos mouilles.
Pour gagner.
Biville la baignarde. Écoute.
Vas-y, Freddy.
À gagner.
Heureusement qu'on était là.
Où est la caméra?
On l'a ramassé.
Où est la caméra?
Et pourquoi il n'y a pas de.
Pat Le Guen. Hop.
À gagner ce mois-ci.
Une petite photo.
Non, mais un Facebook Live.
Ah oui.
Un Facebook Live.
Allez, vas-y.
Le alors, dis-moi quand t'es prêt.
Alors,
c'est un petit peu le problème, c'est la première fois que je le fais.
Non, mais ça va pas. Fais-le avec l'entrepôt.
Et tu le fais.
On y va à gagner ce mois-ci.
J'ai juste une question avant. S'il y a pas
c'est moi qui pose la question.
S'il n'y a pas de auditeur qui trouve la réponse, il est pour
qui? Est-ce que éventuellement tu pourrais repartir avec, c'est ça?
Est-ce que c'est pour moi?
4, 3, 2, 1, diffusé en direct.
C'est quoi le titre?
On y va. La question.
C'est parti.
la question poditeur du mois avec ce formidable livre à gagner qui s'appelle Lou Reed, les années Velvet, 1942-2013. Autant vous dire que ça va nous coûter un bras de vous l'envoyer. Si jamais ça pouvait être quelqu'un qu'on connaît qui gagne, ça serait pas plus mal.
Arrête, parce que Christophe, il va tout de suite lever la main. Non, moi, je pars avec.
Donc, je pose une question. Les poditeurs réagissent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec le hashtag Entrepod. Un tirage au sort.
C'est un mec des réseaux sociaux.
L'entrepôt.
Ah merde, on a rien reçu.
Moins 20% sur les boîtes en plastique.
Nico fera un tirage au sort avec un huissier de justice. Hein,
comme la dernière fois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et voilà, il y a ce cadeau à gagner. On vous attend sur les réseaux sociaux. On coupe et je vous pose la question à vous, ami poditeur. Alors, c'est une question en rapport avec notre prochaine invité. À quand remontent les premières traces connues de la guitare ?
Oh, je connais la réponse.
Je laisse nos amis poditeurs répondre.
J'ai pas le droit de répondre et de gagner le livre.
Ah, mais, alors, Freddy, juste pour être plus précis, est-ce que tu veux en siècle ou à l'année près ?
Alors, vous donne un indice. On peut trouver la réponse sur le site guidicchambrier.com.
Oh, wow, joli.
Faites-en ce que vous voulez.
Si vous avez vu,
vous pouvez aussi répondre au hasard. Voilà, c'est fini pour ce quiz.
Merci Freddy.
Merci d'avoir joué.
Freddy nous a quittés, mais on va quand même continuer. On a encore quelques
instants.
Il
est toujours vivant, il est juste parti.
Oui, oui. On va reprendre donc avec nos invités le cours de l'émission. C'est vrai que vous avez, je vous côtoie régulièrement dans le cadre d'événements qu'on
et
a pu voir. C'est moi qui vais plutôt vous remercier, mais dans le cadre d'événements que vous organisez, c'est quand même souvent tourné autour du jeu vidéo. Vous avez une approche qui est quand même assez grand public, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, alors que également dans le grand public, le jeu vidéo a plutôt mauvaise presse. Je ne sais pas si vous avez vu justement le bouquin que j'ai là, le dernier. À chaque fois, je me fais avoir. Le dernier JV, qui est le jeu vidéo, le paria de la culture. Et effectivement, c'est vrai que c'est souvent, déjà quand c'est considéré comme de la culture, déjà, on a déjà fait un grand pas. Mais en général, c'est quand même de la sous-culture, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a dans ce bouquin-là que j'ai pu consulter, il y a quelques petites choses que j'ai retenues qui m'ont un petit peu fait sourire et j'aimerais avoir votre avis. Et donner l'exemple que quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo ou qui aime le jeu vidéo, préciser à un employeur qu'on aime lire ou regarder des films, ça ressemble à un atout. En revanche, confesser qu'on aime jouer à une console, c'est à quelque chose de dégradant. Jamais personne dira « je joue au jeu vidéo » sur un CV, par exemple. Alors que dire qu'on est cinéphile et qu'on est un fan de littérature, alors ça, on va le faire. Qu'en général, le jeu vidéo, c'est considéré comme un truc pas sérieux et qu'en France, c'est à peine reconnu comme faisant partie de la culture. Et dedans, il y a une étude qui dit que sur 1500 personnes, seuls 7% considèrent que ça fait partie de la culture, 20% ça dépend des cas et 63% absolument pas. Ce n'est pas un sujet de culture.
C'est fort, ça.
Mais c'est
absolument
vrai,
pas.
Et que même des gens qui travaillent dans cet univers-là, les personnes qui travaillent dans ce milieu passent une bonne partie de leur temps à justifier que leur métier a de la valeur. C'est-à-dire que pour plein de gens, Marius l'a dit, même s'il l'a dit sur le ton ironique dans son intro, c'est souvent oh, allez les gars, il est temps un peu de passer à avoir un vrai métier. Quoi.
Et sinon, vous faites quoi
dans la
vie ?
Et juste du coup, vous qui avez quand même cette étiquette quand même assez marquée par rapport à Pixel ou Back to the Game, comment vous le vivez ? Est-ce que vous retrouvez dans ce genre de questionnements, d'interrogations, etc.
Est-ce que tu veux généraliser directement la
question ? Sans généraliser, justement, est-ce que vous avez cette approche-là ?
D'abord.
Oui, déjà, quand on travaille dans la culture en général, les gens qui ne sont pas dans le milieu culturel ne comprennent pas en fait ce que tu fais ou alors c'est carrément
c'est
flou.
Pas productif en
c'est
fait
c'est plus large en fait
c'est pas mais productif c'est mais alors qu'est-ce que tu apportes vraiment voilà. À la société
est-ce que tu ramènes de l'argent comment ça se passe
et donc oui on peut généraliser aussi après du coup sur le côté jeu vidéo c'est un peu plus c'est différent parce que du coup oui c'est aussi vu comme du divertissement et nous on est aussi confrontés à des publics et puis aussi à des relais en fait entre nous et le public donc souvent des profs ou d'autres personnes qui vont faire vraiment le relais et du coup c'est souvent on est souvent en train de se justifier de oui ça a vraiment une valeur culturelle oui ça nous apporte ci ça nous apporte ça et du coup, c'est assez compliqué parfois de discuter avec, avec des personnes qui parfois sont ouvertes à ce qu'on est en train de dire, parfois sont complètement
souvent
fermées.
Souvent ne sont pas, ouais. Mmh.
Et donc là, oui, ça devient compliqué.
Parce que
même à sa propre famille aussi, hein, c'est toujours devoir expliquer ce qu'on fait. Enfin, c'est à chaque fois. Et
en même temps, c'est paradoxal parce qu'on dit souvent que la culture, c'est quand même un très fort pourvoyeur d'emplois et de profits, et de plus en plus. Là, c'est l'inverse, en fait, que vous êtes en train de dire, que finalement... les gens n'ont pas conscience que la culture apporte beaucoup, beaucoup.
Je pense qu'il y a le discours et il y a la réalité.
Voilà, c'est ça. C'est que nous, on est confrontés souvent. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas toi, Paul, mais souvent, je me sens obligée de discuter et de d'expliquer longuement ce que je suis en train de faire et puis ce que ça apporte et puis ce que ça m'apporte à moi et ce que ça apporte aux gens avec qui je travaille, quoi.
Je suis obligé de prendre un petit peu de distance là-dessus. Il y a deux choses que je voudrais dire. Il y a une anecdote que j'ai remarquée, je crois qu'hier ou avant-hier, j'ai regardé la Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, et où ils ont fait un sujet sur League of Legends. On en parlait tout à l'heure.
Les MOBA. Justement.
Voilà, les MOBA, voilà, dans le quiz de Freddy tout à l'heure. Et du coup, ils faisaient un sujet là-dessus, sur le fait que voilà, l'e-sport aujourd'hui a un créneau sur la télé, et avec un ton un tout petit peu moqueur. Et Yann Barthès fait le tour de son équipe en disant, mais il y a... Donc comment s'appellent les deux humoristes qui sont avec lui?
Quentin et je sais plus qui.
Et je sais plus qui. Sais plus voilà. Il dit. Non, mais voilà.
Je crois que c'est son vrai nom en fait. Je sais plus qui.
Voilà, c'est ça. C'est horrible. Eric et Quentin.
Eric et Quentin.
Du coup, il disait, mais qui joue? Et en vrai, autour de lui, il y en a certains qui jouaient et d'autres qui jouaient pas. Et d'autres qui. Et Yann Barthès qui découvrait, mais toi, tu joues à ça. Et c'est-à-dire qu'il y avait toujours cette surprise, mais oui, toi aussi, tu joues à ça.
Alors que Yann Barthès est considéré comme étant faisant partie de la culture, jeune, dans le vent, etc.
Et en même temps, Yann Barthès ne peut pas tout faire.
Et non, il ne peut pas tout faire. Je pense qu'il est aussi animateur, producteur.
C'est le côté un peu condescendant des fois qu'il peut y avoir qui est dérangeant.
Qui est un peu dérangeant. Donc il y a cet exemple-là, et puis il y a l'autre exemple qui. Enfin, je suis obligé de généraliser. Moi, j'ai un vrai travail, comme on dit, à côté du modèle associatif. Avec Pixel, où je fais de la réalisation du visuel avec des jeunes. C'est un métier que j'ai jamais pu expliquer à mes parents, qui viennent, eux, d'un milieu très populaire. En vrai, cette distinction entre un métier qui est hors des sentiers battus et le jeu vidéo en fait partie, pas plus, pas moins que les autres. Un petit peu plus parce qu'il est un peu nouveau, parce qu'on en parle souvent, effectivement, négativement. Le dossier de JV que tu abordais tout à l'heure, pour moi, il est un peu obsolète parce qu'on est sur une pente où ça va passer de toute façon, tranquillement, sûrement, parce qu'il y en a qui font leur pierre. C'est pas un sujet sur lequel aujourd'hui, pendant un temps, moi, je me suis pris un peu la tête là-dessus en me disant, mais même au début de Pixel, on s'est dit, on va mettre beaucoup de scènes indées, etc. Et aujourd'hui, on se pose même plus la question que si c'est indé ou pas indé. C'est, est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'on peut en ressortir quelque chose? Point barre. C'est-à-dire que vraiment au début Pixel, et on a fait nos apprentissages, hein, on défendait des jeux, je pense à un jeu purement concept qui s'appelle Dragon's Concert, qui est sur le témoignage d'un...
Oui.
On peut en parler, c'est
ça. Dragon's Concert.
Ouais. Qui est sur le témoignage de deux parents qui ont perdu leur enfant de moins de 5 ans d'un cancer et qui retrouvent. Et du coup, voilà, le jeu retrace ça. Et à la base, c'est vrai que Pixel, on se disait, bah, on va proposer ça. Le jeu est extrêmement bien fait, parce que du coup, il n'y a pas les visages, c'est très cubique.
Il y a la notion de jeu qui entre en.
Oui, mais
tu ne peux pas, jouer avec.
Je pense que c'est ça, en fait, le terme. C'est le terme de jeu
qui,
de temps en temps, peut
desservir
complètement le
propos. Sauf que c'est pas grave, il faut l'assumer en tant que tel, parce que c'est l'interactivité. Mais on ne peut pas dire interactivité ludique. C'est bon, on ne va pas.
Documentaire interactif ludique.
Super, enfin voilà. Si c'est pour faire plaisir à Télérama, c'est pas la peine. Je dis ça parce que Rafik, parce qu'on en a discuté ensemble. Enfin, je vous invite tous à lire les chroniques de Télérama sur les mangas, etc. Prenez Télérama il y a 10 ans, c'était ridicule. Il y a 5 ans, et chaque année, ils sont toujours ridicules de 10 ans, quoi. Enfin, parce que ils ont la vision de Yann Barthès, effectivement, ce regard un peu. Oh, mais tu fais cette pratique qui est
pas toujours quand même.
Quand on compare Tezuka à RG, c'est bon. Enfin, pourquoi le comparer à un mec Non, il est auteur, oui, point barre, et stop. Quoi.
Oui, il y a besoin de le
justifier par rapport à notre culture qui est belle,
etc.
Par rapport à un Européen, par rapport à une vision de la bande dessinée.
Et à une culture qui a été acceptée.
Voilà, qui a été acceptée. C'est-à-dire que si on... Et du coup, le jeu vidéo, lui, on n'arrive pas à l'accepter en France, parce que finalement, en France, on en a beaucoup produit. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins présent. La scène est un petit peu moins défendue. Et du coup, je trouve que les combats, comme j'y vais là, de dire est-ce que c'est une sous-culture, faut pas se poser la question. C'est, en vrai,
ils
c'est
l'ont
ça,
pas
la,
forcément
la
proposé comme ça, mais après, je comprends tout non, à fait mais ton, voilà, ton approche.
Nous, mais parce qu'on est tombé dans ces travers-là, se dire on va proposer des trucs indés, des trucs un peu barrés, et finalement, eh bien non, il n'y a pas besoin. On peut trouver dans des jeux très commerciaux, etc., des points de vue, des manières ouais, de réaliser, etc.
La console très décriée Wii U,
ouais.
Il y a des jeux qui, artistiquement, Yoshi Woolly's World, voilà. Le dernier qui vient de sortir, Mario machin, là, Mario Paper, je sais pas quoi, ouais. Artistiquement, c'est beau.
C'est, ouais, c'est
y a
très
pas
beau.
De question
et
à
puis,
se poser. Quoi.
Et les artistes avec qui on travaille, je prends un exemple, on a présenté pour le film, pour une exposition dans un, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais pour un travail avec un hôpital. On va proposer un jeu qui s'appelle Skull Monkeys, qui est un jeu sur PlayStation, édité il y a déjà quelques années, réalisé par DreamWorks, à l'époque où vous faisiez des jeux. C'est quand Spielberg avait plein de poignons après Jurassic Park et dit ouais, on va faire plein de
tu
trucs.
Tu touches pas Steven.
Ouais, et voilà. Et Steven, il avait tellement de poignons qu'on va faire plein de trucs. Et il avait fait un jeu en stop motion. En pâte à modeler, ce qui ne se ferait plus jamais aujourd'hui. Hein. Ça coûte trop cher, voilà. Et du coup, ce jeu-là, finalement, qui est très commercial, mais qui a une proposition artistique un peu particulière, et ben, ce jeu-là, il y a des artistes qui vont pouvoir s'en emparer pour créer quelque chose à côté. Donc, en vrai, cet angle-là, nous, on l'a pris comme ça, à notre petit niveau.
Oui.
Et on s'est dit, bah, chaque jeu, en gros, on peut en tirer quelque chose. Tu parlais de Wishy Woo World, on pourrait très bien créer un truc autour de la laine, autour de la texture, autour de la matière, autour du toucher, avec un public soit déficient, soit lambda.
Ouais, non, mais c'est ça un peu l'approche qu'on peut avoir. Et effectivement, la question souvent où on se pose, est-ce que le jeu vidéo est un art et doit être considéré comme un art? Moi, pour moi, c'est pas une vraie question. Ouais. C'est, voilà, comme tu dis, ça intéresse des cercles intellectuels qui ont envie de se poser la question.
Ça intéresse des très gros spécialistes et je trouve que voilà. Ça enferme. Mais... Parce qu'on peut être très, on peut être aussi obtus que. Alors, je suis désolé pour Télérama, mais on peut être aussi obtus que Télérama. Moi, je peux l'être dans des discussions avec. Quand on est sur des émissions purement jeux vidéo, etc., game design, level design, on va utiliser des termes très pointus et du coup, on va se couper oui. D'un public.
C'est un peu ça que vous appelez tous les deux geek nazi ou ouais. Chose comme ça ? C'est les extrémistes. Mais c'est, enfin, j'ai vu ce terme-là dans ce que
mais
vous avez.
C'est-à-dire que, en gros, à vouloir absolument défendre quelque chose, finalement, on le dessert parce que on va lui donner une couleur, une caractéristique qui exclut, et pas qui inclut. Oui. Pour nous, c'était très important d'inclure les personnes.
D'inclure
les personnes. D'inclure.
C'est mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut voir. Enfin, moi, je suis assez convaincu par votre démarche, mais ce qu'on peut voir par ce que vous avez pu faire à Normandie Bulle ou dans des choses
le
comme
maki-maki.
Ça. Ou l'idée, voilà, ou le maki-maki qu'on a pu faire dernièrement quand on a fait la soirée qu'on évoquait tout à l'heure au Calif. Où, voilà, l'idée, c'est de faire de montrer à des gens que finalement, le jeu vidéo, il n'y a pas une frontière entre eux et le jeu vidéo. C'est que le jeu vidéo, il peut être à tous les niveaux. Ça peut être sur un smartphone, ça peut être avec des gobelets comme vous avez fait et de la gelée. Ça peut être un jeu vidéo finalement.
Oui, faut que tu racontes ta gelée quand même.
Oui, c'est vrai.
Parce que là, du coup, c'est un.
Oui, parce que je vois pas, là.
Alors, le maki-maki, si je dis pas de bêtises, Géraldine, tu m'arrêteras si je dis une bêtise. C'est un dispositif qui a été mis en place et que vous avez acquis par Pixel, qui permet de rendre un grand nombre de surfaces comme des éléments de contrôle d'un jeu vidéo, quel qu'il soit.
Ouais. Tant qu'ils sont conducteurs.
Ouais. C'est un projet Kickstarter. C'est important que ça vienne. Ça vient de personnes qui se sont dit tiens, mais en vrai, une manette, c'est un positif et un négatif qui se touchent. Le corps est conducteur. Et si on faisait une manette qui était conductrice avec tout, mais tout. Des produits, des pâtes, des fruits, des légumes, de la gelée. Et du coup,
de l'eau.
Ouais. Et du coup, voilà, n'importe quoi.
Il y a des couleurs qui font bien dégueulasse.
Par contre, ouais, quand vous mettez du colorant dans la gelée, des fois, c'est pas cool.
C'est sympa. Bien crado. On aurait dit un lait caillé, mais de plusieurs mois.
N'empêche que l'entrepode a gagné ce blind test.
Non, mais on n'a pas gagné.
Ah, c'est pas moi qui le dis.
On a écrasé le reste du monde.
L'entrepôt, comme le disait notre animateur.
Mais cela étant, on a passé une super soirée avec ce dispositif-là. Pour remettre dans le contexte, c'était une soirée blind test. On fait un petit clin d'œil à Freddy qui nous a quitté. Blind test avec des musiques
8 bits.
Remixées en 8 bits.
Ouais, vous avez
donc, c'était des musiques de rock remixées en 8 bits.
Franchement, je crois qu'on
et il fallait toucher la gelée pendant que.
L'équipe d'après avait genre 8 points.
Ouais, mais voilà.
Et c'est, c'est ça qui est le côté génial, c'est le côté ludique. Et qu'on a pu retrouver, mine de rien, avec la Wii quand elle est sortie. Où il n'y avait plus ce côté 25 boutons à gérer, qui faisait un peu peur aux gens, et où on voyait dans les journaux télé des gens qui regardaient, même dans les maisons de retraite, les gens jouent au bowling et c'est bien pour la motricité, etc. Et c'est vrai que ce côté peut-être un peu excluant que tu évoquais du toujours plus de graphisme, toujours plus de polygones, toujours plus de puissance, etc.
De boutons, pour le grand public, etc.
C'est excluant. Alors que finalement, un jeu vidéo, c'est une expérience. Enfin, moi, je ne vais pas vous dévoiler mon coup de cœur tout à l'heure, mais c'est un jeu vidéo qui finalement n'est pas un... Il n'y a pas besoin de dextérité. C'est zéro. Enfin, c'est... Alors qu'il y a d'autres jeux qui sont
ça
très compliqués.
Ça me va très bien.
C'est vrai que pour des personnes comme nous qui avons un impact minime, hein, on est loin de Karim Debbache avec ses 200 000 tout à l'heure sur le Tipeee, mais enfin, toutes les personnes qui souhaitent en tout cas proposer quelque chose, que ce soit l'anthropode, voilà, une mission qui va être écoutée par d'autres personnes, etc., partager des choses, on doit être attentif au maximum inclure les personnes, que ce soit sur la musique, le cinéma, le jeu vidéo, et en gros, on le traite exactement de la même manière. Et c'est vrai qu'à Pixel, on a été très attentif à traiter tout, que ça soit une œuvre d'art, faire péter des oreilles dans un château. On a été très content que finalement, ça soit rattaché à un feu d'artifice qui est beaucoup plus parlant pour tout le monde. Et finalement, ça s'est très bien marié ensemble.
Mais c'est vrai qu'on voit qu'on a fait effectivement quelques points communs. Enfin, la soirée carte blanche que vous avez eue au Calife, où on a retrouvé finalement Xavier qu'on a eu nous-mêmes ici. Enfin. À
c'est
la
un
fois
peu une mafia.
On était un peu en famille. Hein.
C'est, oui, alors
non, mais
on va pas se mentir.
C'est le côté passe. Enfin, c'est Mickaël. Pardon, excuse-moi. C'est ce que disait Mickaël Ferron du Rêve de l'Escalier, un de nos premiers invités, qui nous a dit.
Inconnu.
Moi, on sait pas qui c'est.
Moi, ce qu'il se voyait, c'est en partageur d'expérience. Et c'est exactement ça, en fait. C'est de faire découvrir des gens qui se connaissent pas et de leur montrer que finalement, bah, en se connaissant, ils peuvent construire quelque chose de plus important encore. Et je pense que vous êtes dans cette optique-là. Nous, on l'est à notre niveau, etc.
C'est pour ça qu'on vous aime beaucoup.
Oui, David, merci.
Et j'aime
gentil.
Bien, en fait, donc on était, comme l'a dit Nico, au Festival Carte Blanche. Et on a pu venir en famille. Et je trouve ça super chouette, en fait, parce que les enfants étaient accueillis, mais je ne sais pas comment ça s'appelle.
Ah oui, mais Kevin, que tu évoquais tout à l'heure, votre animateur.
Il s'est jeté sur eux en
les
leur disant...
Les gamins, ils ont été ravis.
Là-bas, vous pouvez jouer à ça. Là-bas, c'est ça, ça, ça.
Il s'est jeté sur eux, oui, ça ne m'étonne pas.
Ouais, non, mais c'est vraiment
en tout bien,
sympa.
Tout honneur.
En tout bien, tout honneur. Et au cours de la soirée, donc pendant qu'on était en train de faire le blind test, les deux grands cons...
Bah, on a fait le blind test, on a pu profiter du concert pendant que les gamins, ils étaient sur les consoles.
Et j'ai vu Kevin se rapprocher des enfants et venir leur expliquer un jeu, en fait, sur lequel ils étaient. Et il est venu redonner des clés pour qu'ils comprennent bien le jeu sur lequel auquel ils sont en train de jouer. Enfin, c'est familial en
et
fait, c'est vraiment chouette.
Après, c'était pas après, le jeu vidéo comme nounou. En
pourtant,
plus.
Ils sont petits, voilà, les enfants sont petits.
C'est ce que je voulais dire du coup. Enfin, l'idée c'est que souvent le jeu vidéo attire, surtout les jeunes, le jeune public en fait. Et après, du coup, notre idée c'est aussi de leur faire découvrir d'autres choses. Donc d'autres là, il y avait aussi des concerts, il y avait d'autres jeux qui n'étaient pas des jeux vidéo, mais du coup. Le blind test.
Mais c'est vraiment familial en fait. Les enfants se sont pas sentis un peu en marge de l'événement.
C'est très artistique en plus les que vous mettez. Enfin, vous essayez de mettre en perspective toujours. C'est pas vous arrivez pas en disant on met des consoles à disposition puis jouez ce que vous voulez. C'est à dire que à Normandie Bulle c'est des jeux en lien avec la BD. Là dans le cadre qu'on a pu participer. Enfin,
toi t'as quel âge? Bah il y a ça qui peut t'intéresser. Toi t'as quel âge?
Et c'est toujours très mis en perspective. En fait. Et c'est ça qui est assez intressant. C'est il y a une vraie volonté éditoriale enfin entre guillemets. Que
non mais
envie
tu peux y aller. C'est à dire que effectivement chaque exposition, mais au même titre que d'autres collègues. Tout à l'heure je parlais de MO5. Il faut imaginer que Back to the Game et puis à travers Back to the Game Pixel n'aurait pas existé avant MO5. Mais effectivement nous on a vu ce qu'ils faisaient comme travail. Plutôt sur l'histoire du jeu vidéo, nous on a choisi un autre axe parce que ça nous bottait plus. Géraldine a parlé tout à l'heure des expositions ou du travail qu'on faisait avec les médiathèques, les bibliothèques. On se souvient d'une exposition quand on amène du jeu vidéo, effectivement c'est très attractif parce que ça parle aux jeunes, parce que c'est marketé pour, on va pas se mentir, c'est en tête de gondole dans les rayons, etc. Les publicités ça passe sur Gulli, pas sur Public Sénat. Voilà, il viendra. Enfin, Géraldine et moi, on a fait une expo à Simone de Beauvoir, qui est une énorme médiathèque à Rouen,
chez Simone.
Qu'on appelle entre nous chez Simone. Et je reviendrai toujours cette phrase de Flower, c'est trop d'art. Flower, c'est un jeu où on joue le vent et on fait éclore des pétales.
Surtout que la veille.
Voilà. Un message de Marius.
Et jouer le vent et éclore des pétales, j'aurais jamais cru de ma vie entendre c'est trop d'art. Et on a eu des jeunes qui nous ont dit « Flower, c'est trop d'art ». Et pour nous, ça, c'est très important de proposer une expérience ludique un peu différente et que le public y trouve son compte.
Flower, journée, des trucs comme ça, les trucs qu'on te met en avant dès qu'il y a des trucs un peu artistiques, poétiques,
oui,
etc.
Mais il faut bien penser aussi que moi, on était les premiers au sein de Pixel. On est quelques-uns à vraiment être très attentifs sur les programmations, sur les jeux qu'on va proposer. Et souvent, on se posait la question pour les publics très initiés, les gens qui savent, par exemple, voilà, Freddy tout à l'heure parlait de musiciens et de références musique. Quand t'as pas les références, t'es complètement perdu. Et du coup, proposer des grands classiques pour un joueur, finalement, c'est pas grand classique pour tout le monde. Mmh. Et en gros, on a besoin aussi de proposer quelque chose comme Flower, comme Journey, qui sont effectivement des grands classiques pour les joueurs, mais pour le très grand public, Journey et Flower ne sont pas vendus en tête de gondole dans les supermarchés.
On avait évoqué à une époque, quand tu étais venu à notre micro, on avait parlé de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Artistiquement, c'est une tuerie. Par contre, ça n'a pas été hyper vendu.
Ça n'a pas été hyper vendu. Par contre, Ubisoft,
toi, t'avais adoré.
Ah, moi, j'avais adoré.
Et Ubisoft, enfin, alors, c'est mon petit. Je dis rarement du bien d'Ubisoft, mais là, il faut que je leur dise quand même. On a travaillé avec Ubisoft. Sur ce coup-là, oui, parce qu'ils étaient très agréables. On peut se dire qu'une multinationale comme
Ubisoft Montpellier qui fait ça.
Oui, mais non, c'est. Oui.
On avait reçu quelqu'un au Festival des Filles Fantastiques qui travaillait avec Nicolas.
Et c'était vraiment bien. Enfin, ils étaient super accueillis. Enfin, ils nous ont filé les jeux, les artworks, etc. On a vraiment pu faire un beau travail d'exposition en lien avec du coup toute l'équipe de Pixel avec Ubisoft et sans rien attendre en retour. Donc comme quoi, même une grosse boîte comme Ubisoft internationale, etc. peut du coup
apporter
quelque chose.
Pierre à
l'édifice. Et je trouve que du coup dans les podcasts on le dit pas souvent que des grosses boîtes des fois elles font des choses bien. Des fois.
Et ben justement tu parles de podcast.
J'avais pas le programme.
Putain, c'est un métier, c'est un métier. Il y a de nombreux podcasts qui parlent du jeu vidéo, du numérique, etc. Moi, j'ai souvent le rendez-vous jeu, Silence on joue, le rendez-vous tech, des choses comme ça. ZQSD que tu as évoqué tout à l'heure. Enfin, c'était peut-être en off d'ailleurs que tu l'évoquais. Vous, est-ce que vous avez ce type de podcast est-ce que vous écoutez des podcasts déjà? Et est-ce que vous avez ce type de médias que vous avez envie de mettre en avant sur certains qui ne sont pas forcément connus, qui peuvent aborder des sujets comme vous voulez les voir présenter en fait puisque justement des fois c'est pas, on reste un petit peu dans des clichés ou dans des niches plus que dans des clichés.
Alors, moi je vais garder la parole juste pour en citer un avec qui du coup on a eu l'occasion de travailler tout à l'heure. C'est Freddy je crois qui posait la question si on était régional ou autre. C'est vrai que parler du jeu vidéo, de l'art numérique, ça nous ouvre la porte de pouvoir discuter avec plein de gens et essentiellement sur le net. Et du coup, ça nous amène à nous déplacer très loin, des fois en Suisse, pour faire un truc.
Gérard Lussemar.
Vous n'allez pas qu'à Villers alors.
On va pas qu'à Villers.
Il n'y a pas que Conchon Nouche dans la vie.
Non, mais alors pourquoi elle se marre
parce que c'est quand même mythique, Paul Conchon à Genève. Voilà.
Paul Conchon à Genève, c'est quand même quelque chose. Hein. Non, mais c'est vrai, on nous a invités à aller parler de jeux vidéo et de jeux indépendants à Genève. On nous a invités aussi en Bretagne lors du Stonefest, là où on a du coup pu rencontrer Karim Debbache. Oui. Non, c'est Au bas gauche droite qui est un podcast du coup qui a 2 ans maintenant, je crois un petit peu plus peut-être.
C'est drôle comme nom.
Ouais, Au bas gauche droite. C'est une bande de chroniqueurs qui traite de jeux vidéo. Donc là, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein, qui traite de jeux vidéo. Donc j'en ai deux. Hein. Celui-ci qui traite de jeux vidéo, mais très très sérieusement. Voilà, il y a peu d'alcool. Ouais. Tu sens qu'il y a pas trop de bière. Ils enregistrent le dimanche matin et ça se sent. Mais moi j'ai milité pour enregistrer le dimanche matin, mais parce qu'on propose une autre émission, effectivement, différente, qui va parler de d'économie, de culture, etc. Et c'est un podcast avec qui, du coup, j'ai pu l'occasion, moi, de faire une conférence sur le jeu indépendant avec un des chroniqueurs. Et effectivement, ils sont adorables. Ils ont, alors, il faut avoir passé 30 ans. C'est un peu tristouille, mais...
C'est pas pour toi, alors.
Okay. Mais on peut s'y intéresser avant.
C'est pas triste
mais...
d'avoir passé 30 ans.
Non, c'est pas triste.
Ça va, je le dis bien.
C'est-à-dire qu'effectivement, dans les propos, on va moins parler...
Est-ce qu'il y a une vie après?
Il paraît que le monde...
Le monde, tu ne vais pas cool. Partir, en fait.
Non, mais quand je dis ça, c'est que pour tous les personnes qui sont habituées à certains types de podcasts ou de choses très actues, ils ne sont pas très actues, un petit peu... Mais ils vont traiter des sujets de fond un peu compliqués, etc. Donc, il faut voir, il faut quand même l'apprécier. Et le deuxième, alors je vais l'oublier parce qu'il est québécois.
On l'oublie parce qu'il est québécois. Je trouve ça petit.
Est-ce que tu peux nous le dire en québécois, Géraldine?
J'ai Paul, non?
Il y en a un qui s'appelle... Il y a un truc qui s'appelle... s'appelle Papa Cassette.
Papa Cassette.
Voilà.
Géraldine. J'aurais pu la faire aussi, celle-là, excuse-moi.
Il y a plus compliqué quand même.
La prestation était médiocre.
Papa Cassette.
Ça fait plus martiniquais que québécois quand même.
C'est vrai. Martiniquais, ce serait différent.
Ah, tu sais faire tous les accents en fait.
Tu dis hips.
En fait, c'est mon vrai métier.
C'est ça en fait. Voilà. Voilà, limitatrice d'accent.
À taper Papa Cassette d'abord, vous tomberez forcément dessus. Donc, c'est un site, c'est un podcast québécois qui traite de jeux vidéo. Et c'est, donc, c'est rigolo parce que ça offre un regard anglo-saxon, mais pas vraiment, parce que du coup, ils parlent en français, mais en québécois. Pour les Français, c'est à mourir de rire.
C'est dur des fois, les
Québécois. C'est un peu dur, mais ça va encore. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un regard aussi américain sur l'industrie, etc. De comment ça se passe chez eux, comment ils reçoivent les choses. Et puis, ça permet d'avoir des traductions de jeux vidéo incroyables que nous, on n'a pas chez nous.
D'accord, bah écoute, très, très sympa. Moi, je vais aller creuser parce que j'aime bien écouter des podcasts de ce genre-là. Je pense que ceux-là, je vais les prendre.
Bas, gauche, droite. Ouais. Géraldine en québécois.
Au bas, gauche, droite.
Ouais, okay. On le fait quand même très bien.
Bah écoutez, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour de tout ce qu'on pouvait se dire. On a déjà évoqué qu'on pouvait faire des petites capsules un petit peu à part, peut-être dédiées spécialement à la VR. Vos prochains projets, voilà la VR justement, on va y venir justement après. Mais
qu'est-ce à dire
la VR, qu'est-ce à dire
la VR pour Virtual Reality.
Virtual Reality.
Oui, parce que Hervé, ça fait Jimmy bizarre. Hervé, ça pense Hervé. À Hervé Morin.
Hervé. Non mais nous on connaît des Hervé en plus.
La réalité virtuelle.
Non, non.
Ah, je pensais
que
tu parlais de moi.
Ah mais tu t'appelles Hervé, toi.
Ah, tu t'appelles Hervé aussi, c'est vrai.
C'était mon nom de jeune fille.
Vous m'avez vu.
Mais je pensais à un autre, moi.
Qui n'est pas très high-tech, en fait. Ouais. Et vos prochains projets pour Pixel, quels sont les prochains projets? Parce que là,
Paul se frotte les mains.
En général,
où
est-ce qu'on peut vous retrouver
aussi.
À l'horizon fin 2016 et peut-être 2017, vous avez peut-être des grands projets, peut-être du teasing ou du...
Teasing sur les prochains événements, donc on va travailler principalement avec le Festival des Azimuts. Étudiants rouennais avec Elian,
un des cofondateurs de Pixel. Hein.
Donc Elian de la ville de Rouen et du Courtivore.
Oui, oui. On avait reçu au micro en fait il y a quelques mois.
Oui c'est ça. On va travailler sur les Azimuts, donc pour deux événements principalement. On va travailler du coup sur la grande soirée d'ouverture du festival des étudiants rouennais. Qui va se dérouler le 17 novembre. On sera dans le salon geek, donc on a l'opportunité de...
On vient toujours avec ce mot quand même.
Oui, tout à fait. On va pouvoir investir en fait la salle du conseil municipal avec plusieurs associations. Donc il y aura le Saisi de Rouen, il y aura la Cachette dont on parlait tout à l'heure. Et puis d'autres, comme y aura aussi le Festival du Film Fantastique. Et donc on va proposer tout un salon avec plein de geekeries en fait. Nous principalement on propose un atelier de light painting, donc ça va consister à dessiner avec de la lumière, donc une technique photographique.
Ouais, il y en a un qui...
voilà, et puis aussi une programmation de jeux vidéo hard level, donc des jeux principalement indépendants.
Hard, Christophe, tu seras ou...
Hard.
Je sais pas, il manque une lettre.
Alors. Niveau des fessées.
Ça c'est pour moi.
Pour Paul.
Mais il a de l'expérience.
Non, donc voilà, ce sera l'idée de se poser des défis sur des jeux en grand écran, à plusieurs, pouvoir partager tout ça ensemble.
D'accord.
Et après, un deuxième événement aussi qu'on organise au Centre André Malraux, ça va être le 10 décembre.
C'est sur les Hauts-de-Rouen.
Oui, voilà, sur les Hauts-de-Rouen, avec Etlan Party, qui est une association qui organise des LAN parties. Donc
ça existe toujours en 2016.
Ça existe toujours, ce que j'allais dire. Des mecs qui arrivent avec leur PC et puis qui se branchent et qui passent...
Et qui jouent à LOL.
Et qui passent... 4 heures à brancher leur PC pour jouer
une heure à jouer.
Ils sont un peu plus rapides aujourd'hui.
Ah ouais. Des jeux en réseau, donc sur tout un week-end, nous on sera là toute la journée du samedi et on propose du coup d'autres parties du monde du jeu vidéo, donc aussi une exposition et puis une salle un peu psychédélique qu'on va faire aussi avec la Cachette.
D'accord, plutôt sympa en fait, des univers un peu différents en fait finalement.
plutôt très très geek et plutôt un peu grand public en fait finalement.
C'est ça.
Donc
Et alors sur les azimuts, sans spolier ou spolier, c'est très français spolier, c'est très français ça. Non, de proposer peut-être, il y aura peut-être un stand de réalité virtuelle.
Aussi, oui, c'est sûr même.
C'est, voilà,
tu me tends une perche là.
Voilà, c'est mais, pour faire la transition.
Mais qu'est-ce
pour
à dire
futur.
Puisque mais qu'est-ce à dire, nous allons passer à la rubrique de Starlet qui va tester pour vous. Attention.
Quand je me regarde dans quelque chose, je le fais à
fois, mais à mort ce jingle quoi.
Je t'ai proposé de le changer
donc,
en début d'année.
Et oui, et à chaque fois je te dis j'ai pas l'inspiration, il faut, et à chaque fois qu'on refait l'entrepôt je me dis mais il faut que je trouve un truc absolument quoi.
Et que va nous faire Starlet cette fois-ci? Elle va nous faire un test en live.
Ouais.
Puisque avec la venue de Pixel, nous allons faire un test de réalité virtuelle. Donc les réalités virtuelles, c'est quelque chose qu'on commence à entendre, dont on commence à entendre parler plutôt assez régulièrement dans les médias. Donc ce sont des casques qui permettent un petit peu de vivre dans un monde un petit peu imaginaire
en étant
à 360 etc.
Je vais prendre le relais.
T'es en train de réparer le truc
en off,
en fait.
Hein, voilà,
j'essaie de meubler mais pas très bien.
Merci, c'est gentil. En gros à Pixel on a naturellement, en s'intéressant aux expériences de jeu et en tout cas aux expériences numériques, forcément on s'est intéressé à la réalité virtuelle puisqu'elle est arrivée depuis du coup chez nous maintenant il y a 2 ans avec les prototypes d'Oculus Rift.
Il n'y a que 2 ans ?
Il n'y a que 2 ans, voilà. Enfin, en gros, il y a 3 ans avec le premier proto. Nous, on a acquis le deuxième prototype.
Non, mais attends, quand vous avez vu il y a 2 ans avec l'Oculus Rift,
c'était le tout début.
C'était frais de frais,
c'était
quoi.
Frais de frais. On avait le proto 2. Voilà, il y avait eu un proto 1 là-bas. En gros, la réalité virtuelle, pour faire un peu d'historique, ça date plutôt des années 90. Dans les films de SF qu'on pouvait regarder, etc. Ils vendaient également
quand on
faisait des booms
et des surbooms
et que c'était alors je sais plus les mots exactement, mais c'était cool et il y avait de la boule. C'était de la boule.
C'est de la boule.
Donc dans les années 90, il y a eu toute la vague de réalité virtuelle avec ça. C'est pour les aficionados de jeux vidéo, mais avec le Virtual Boy, le premier casque de réalité virtuelle made in Nintendo, qui a fait un four monumental qu'on a. Du coup, au sein de l'association, qui a un casque dans lequel on met les yeux, et du coup, c'est noir et rouge. Donc, il y a une 3D, ça pique un peu les yeux, ça donne un peu envie de vomir.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est le premier casque, ça date de à peu près 93-94.
Comme Vidoc, en fait.
Oui,
ah,
voilà.
Putain, alors, mais la
Vidoc, voilà, la gerbe. C'est ça. Et du coup, l'Oculus, donc Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle né sur Kickstarter, qui a eu un succès, donc ils avaient demandé, je ne sais plus, 20 ou 30 000 dollars. Ils ont eu 3 millions et demi. Ou quelque chose comme ça.
Nous, quand on a des projets comme ça en crowdfunding, on demande 20 euros, on a 20 euros.
Parce qu'ils proposent la réalité virtuelle.
Parce que nos projets sont pourris, je pense.
Tu penses qu'il faut qu'on mente et qu'on dise oui.
Je pense qu'il faut qu'on invente un truc qui ne se fera jamais. Mais...
Ouais.
Et du coup, donc là, pour la petite histoire, quand même, parce que ça va influencer aussi le pourquoi la réalité virtuelle, on en parle aujourd'hui. Facebook a racheté la marque Oculus pour 2 milliards de dollars. Donc quand une entreprise comme Facebook investit 2 milliards de dollars, ça donne un peu le feu vert aussi à toute l'industrie pour investir dans la réalité virtuelle. Voilà, si un gros du poids lourd y va, c'est qu'il faut y aller.
Ouais.
Donc aujourd'hui, il y a deux types de réalité virtuelle. La réalité virtuelle que tu vas essayer ce soir.
Voilà, j'ai des questions avant d'essayer.
À travers un smartphone et un casque que nous on a. C'est une expérience amoindrie par rapport à la vraie, entre guillemets, expérience de réalité virtuelle. Qui avec un casque.
Je ne vaux pas la vraie.
Non, c'est pas que tu ne vaux pas la vraie.
Tu peux expliquer vite fait là, parce que tu parles de smartphone.
Ouais,
et
la première expérience, aujourd'hui photo, en gros, aujourd'hui, on va. Oui, alors sur le. Ouais, avec le téléphone. Attends, je te laisse faire Marie-Ange Nardi.
Oui. Pépita.
T'as des références quand même qui se datent pas d'hier.
Je suis pas très très jeune.
Dans La Roue de la Fortune.
Annie Pujol, c'est encore plus
jeune. Voilà, Annie Pujol. Voilà.
Attends.
Donc en gros.
Est-ce que je suis belle comme une speakerine?
Tu es magnifique.
Voilà.
En gros, il y a deux types de réalité virtuelle. Soit une réalité virtuelle qui est simulée avec un smartphone, donc qui gère la gyroscopie, c'est-à-dire un affichage qui va au-delà de notre champ de vision et avec un système de loupe qui va étirer l'image.
D'accord.
C'est ce qui va du coup reproduire l'immersion totale. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaye de réalité virtuelle, il n'y a plus de réalité, d'où la différence avec la réalité augmentée. dans lequel vous avez, je pense, beaucoup des pods auditeurs ont pu essayer de la réalité augmentée, c'est quand on scanne quelque chose avec son téléphone et on voit un modèle 3D apparaître. Voilà ce que fait également pour les parents la 3DS. En scannant certaines cartes, on voit une réalité augmentée. La réalité virtuelle, là, il n'y a plus de réalité du tout. On est enfermé. C'est pas grave, hein. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, il n'y a que la virtuelle.
Ce n'est affichée. Pas sale.
Et donc, voilà. Donc, deux expériences, soit avec smartphone, où là, du coup, l'écran du smartphone va être divisé en deux. C'est Google qui a beaucoup investi là-dessus avec des Google Cardboard. C'est l'un des casques en carton.
Des Google Cardboard. Oh, yeah.
Ah, yeah. C'est
ça. C'est cool.
Donc du coup
tu parles comme un Sims des fois.
C'est ça, je parle en Sims plus.
Elle parle québécois depuis tout à l'heure et puis elle fait des commentaires quoi.
Du coup,
2 millions de
donc,
Sims
le téléphone donc l'écran du téléphone est scindé en deux, il va afficher deux images différentes et du coup avec les lentilles et avec le fait de poser son téléphone très près des yeux va faire qu'on voit, on va avoir qu'une seule image et avec le gyroscope du téléphone on va du coup simuler la réalité virtuelle. Ça c'est la première expérience qu'on va faire vivre à Scarlett ce soir. Si elle est prête. Et la deuxième expérience est sentisée. On verra peut-être sur un autre podcast où on verra. En tout cas, on vous invite aussi à venir à toutes les expositions où on va présenter de la réalité virtuelle. Là, on la présente avec un casque. Là, l'immersion est un tout petit peu plus immersive puisque du coup, là, il y a une machine dédiée qui va produire deux images différentes. Donc en gros, qui va permettre le relief et du coup, le sentiment de présence. C'est-à-dire que avec une réalité virtuelle, avec un casque, si vous voyez un verre devant vous, il est devant vous.
Est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plein?
C'est deux, trois choses qui vont manquer. On en parlera après l'expérience.
J'ai quand même deux questions.
Alors, vas-y.
La première question. J'ai un problème d'oreille interne, j'ai peur de tomber.
En réalité virtuelle, on appelle ça la sinitance ou la sinisance, c'est-à-dire le fait d'être malade à partir d'un déplacement. En gros, c'est une grosse problématique aujourd'hui avec la réalité virtuelle. J'en parle en gros comme des balbutiants parce qu'on est vraiment sur le début du commercial. Aujourd'hui, vous pouvez, n'importe quel consommateur, le terme n'est pas moche non plus. Il y a amateur dedans. On peut l'essayer à la FNAC. La FNAC propose aujourd'hui les trois casques qui sont le PlayStation VR, l'Oculus Rift et le HTC Vive. On en parlera peut-être un petit peu après. En gros, dès qu'il y a du déplacement, 5% aujourd'hui quand on met un casque de réalité virtuelle, un vrai casque, parce qu'on va te faire essayer aujourd'hui, 5% des gens sont malades d'office.
Ah oui.
Après, dès qu'il y a du déplacement, dès qu'il y a du déplacement, on monte à 80%. Oui, effectivement, le déplacement en réalité virtuelle, c'est le souci d'oreille interne, c'est-à-dire que votre cerveau pense que vous vous déplacez, mais en vrai, vous ne vous déplacez pas, et du coup, ça lui met une sorte de trouble, et du coup, ça donne envie de vomir. Ouais, donc là, ce qu'on va te faire essayer, détends-toi, c'est une expérience fixe où tu es assise, où tu ne te déplaces pas. Et ça, du coup, ça limite énormément l'effet vomitif qu'il y a dans la
réalité virtuelle. Alors, la deuxième question, c'était, je commence à être bourré, est-ce que je vais vomir?
Alors, on a deux, trois expériences qui peuvent te faire vomir.
Merde.
En gros, tout ce qui est roller coaster, mais ça, on le gardera pour une première, plus tard.
En gros, sortez le seau et savourez, quoi.
Et on y va. Je te laisse meubler pendant l'installation.
Vas-y, non, mais on va lancer un petit... Vous un retrouverez petit la vidéo sur le... Non, mais le jiggle, on l'a déjà lancé, Delphine. On va mettre un petit...
Ça, tu vas pouvoir témoigner. Ah oui,
en même temps, pendant que tu parles, tu vas nous donner... Tes impressions plutôt pendant que tu vis.
Ça tourne.
Tac.
Est-ce que tu vois net devant toi? Tu dois voir.
Je vois noir hein, quand même. Hein. Ah, ça y est, VRSE, c'est bon. Ouais. 10 sur 10 aux deux yeux.
Alors, pas bien proche du micro. N'hésite pas à regarder autour de toi.
Est-ce que j'ai l'air un peu con? Oui.
Ça va.
Tu verras.
Qu'est-ce que tu vois?
Une montagne.
Ok, tourne la tête.
Putain, le soleil.
Tourne vraiment derrière toi.
Attends, j'ai la torticolis qui est mignon, mais mollo. Oh, l'oiseau. Il y a des bouteilles ou pas?
Non, il n'y a rien.
La montagne, c'est...
Reviens devant. Est-ce que tu entends quelque chose?
J'entends la musique. Et puis des petits...
Écoute un bruit. T'entends un petit bruit?
Ouais.
Normalement, tu devrais entendre quelque chose qui roule. Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde devant toi. Regarde devant toi. Est-ce que tu vois un train?
Non, je
vois une... Tourne-toi. Baisse les yeux.
Non. Ah! C'est trop beau.
je pense qu'elle kiffe.
Non.
Elle
n'a pas l'air, hein,
vraiment. Non, elle n'a pas l'air, effectivement.
Des oiseaux.
Tu vois des oiseaux?
C'est trop beau. Ils s'en vont
Alors, il s'envole au-dessus de... la Scarlett, et donc pour les amis auditeurs, les Scarlett, parce qu'elle ne parle plus dans le micro.
Starlet, pardon.
Elle est au milieu d'un lac, et effectivement, il y a un train qui a foncé vers elle, et ce train s'est transformé en nuage d'oiseaux qui se sont envolés. En fait. Et là, elle va commencer, si mes souvenirs sont bons, elle va commencer à décoller dans le ciel.
Oula, elle se lève.
Elle se lève. Tourne-toi. Et elle va arriver.
Elle va nous dire qu'elle a un problème d'oreille interne.
Voilà, c'est ça. C'est autre chose. Alors, il faut qu'elle se tourne dans l'autre sens. Tourne-toi là parce qu'il faut que tu te rassoies. T'es encore câblé. T'as un casque sur les oreilles. Voilà.
C'est ça aussi le câble.
Ah, j'ai
ne regarde. Ferme les yeux si tu as peur. Ferme les yeux. Voilà. Et tu as voulu le faire en direct. Il faut absolument que tu puisses parler dans le micro. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un tunnel?
Non, mais c'est bon, je suis partie du tunnel là. En fait.
T'es partie du tunnel. Tu vois quoi? Regarde autour de toi. Tu dois voir une petite.
Là, il y a. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, une oreille, je suis dans un ventre de maman.
Tu es dans un ventre.
Ah, mais il y a
maman.
Un bébé à côté de moi, ils se sont poussés, trop mignons.
je pense qu'elle est dans un endroit que la réalité virtuelle permet, et du coup, que la réalité tout court ne permet pas d'être dans le ventre d'une femme.
On ne s'en souvient pas en fait.
Ou en tout cas, on ne s'en souvient pas, effectivement. Elle est dans le ventre d'une
c'est
femme.
C'est trop chou, il tourne la main, viens chérie.
Et du coup, la réalité virtuelle sert à ça, à proposer
chaud.
Des expériences de lieux, d'endroits.
Ah, c'est bizarre, mais c'est bon, lâche-moi quand même.
et de choses qu'on ne peut pas voir. Alors, ça peut être impressionnant pour certaines personnes.
Alors, Delphine, il y a Romain qui nous écoute en direct. Qui nous demande si t'as pris un LSD en plus. Alors
virtuel,
Alors
il faut que tu remettes le casque, il faut que tu en parles.
Je peux avoir un peu ou pas?
Alors, elle se remet.
Je sais pas quoi dire en fait.
Tant qu'on n'a pas essayé.
Ah non, mais c'est un peu incroyable en fait. C'est très très immersif, bien entendu. Alors après, je suis peut-être pas le bon public parce que j'ai le vertige à mort, j'ai un problème d'oreille interne. Je l'avais précisé, suspensionné. T'arrives, t'es sur le lac.
Dans ton micro.
Pardon, je suis sur un lac et tout, donc déjà j'ai un peu peur de l'eau. En fait, la nana, elle est névrosée déjà là-bas, tu vois. Tu lui mets un casque de réalité virtuelle, elle flippe sa race. Et après, tu la fais s'envoler très très haut, genre ouh, chaud la mouliche, et elle arrive dans un bide. Elle arrive dans un ventre avec un bébé qui lui fait. C'est un peu chelou, mais c'est vraiment immersif.
En même temps, t'as pas vomi.
Non, mais donc, je suis encore toute chose. Mon petit cœur est encore un petit peu palpitant, et si je meurs, tant pis.
Et j'ai fait ça en 2 minutes.
Le mec, le vampire, quoi. Non, mais c'est très très chouette, et t'as d'autres scénarios,
alors,
j'imagine.
Alors, effectivement, toutes les personnes qui ont un smartphone avec un assez grand écran, il faut vraiment un grand écran pour que ça soit très immersif.
C'est pas la taille qui compte.
Mais alors là, pour le cas.
La nana, elle est maquée quand même avec un micro pénis. Hein,
Parce que je veux t'assurer.
Elle essaie de s'en auto-persuader depuis le début de l'émission.
Je le dis depuis tout à l'heure.
Au plus vous en avez un gros, mieux ça marche.
Pour mes productions, ça peut m'intéresser. Hein.
Voilà. Alors, d'ailleurs, la transition est toute faite. En gros, si on veut savoir si une technologie fonctionne, généralement, on s'intéresse, et ça c'est vrai, hein, dans l'industrie de la tech, si on veut savoir si une technologie va fonctionner, est-ce que le porn y va? Est-ce que l'industrie pornographique...
Il a vraiment parlé de ça, j'ai pas rêvé, d'accord.
Est-ce que l'industrie pornographique... Et c'est-à-dire que, par exemple, au choix, dans les années 90, entre la VHS et la Betamax, oui. L'industrie pornographique a été sur la VHS, c'est la VHS qui a gagné. Au moment
tu sais
où
qu'on a reçu
choisir...
que béton, nous, ici. on connaît un peu.
Et au moment où du choix entre le Blu-ray et la VOD, le porno a été sur la VOD. Aujourd'hui, tout le monde regarde des films, des etc. Plutôt sur VOD, sur Netflix, etc. Parce que c'est ça.
Netflix
qui a
fait pas trop de porno, je pense pas. Moi, je suis abonné à Netflix.
Moi non plus. Non, mais
c'est bizarre.
Je dis pas qu'ils font du porno. Je dis juste que l'industrie pornographique a un tel poids financier que finalement, il va influencer le choix d'une utilisation plus plus régulière.
Voilà. Non mais là, le film que tu as présenté, c'est des images créées. Tu veux le tester après, toi.
Bah, alors, ouais,
c'est des images filmées, alors, en fait. Est-ce qu'il y a les deux, d'ailleurs?
La réalité virtuelle fonctionne infiniment mieux sur tout ce qui est imagerie de synthèse, c'est-à-dire l'image non retournée, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on peut avoir une interaction tournée en trois dimensions, etc. En tout cas, la réalité virtuelle avec casque. C'est-à-dire dans des environnements type 3D CGI, c'est-à-dire des visuels avatar. Voilà, des films tournés comme avatar, c'est-à-dire filmés avec des acteurs avec réels.
Des effets numériques, en fait.
Mais avec des effets numériques en permanence qui permettent du coup la mise en relief des images. Là, ce qu'on a fait tester, c'est un truc un peu mix des deux, c'est-à-dire un mix d'images réelles, tournées réelles, donc voilà, donc il n'y avait pas de relief. Ouais. T'as pas vu de relief, du coup, dans le train.
Non, mais je suis carrément déçu de ne pas avoir vu le train, en fait.
Oui, mais
j'étais pas
voilà,
du bon côté. C'est, putain,
t'es,
bah,
parce que t'as tourné, tu t'es levé aussi.
Oui, parce que j'étais levé.
T'en as fait un peu qu'à ta tête, en fait, hein, voilà. Finalement.
Et du coup, là, sur l'image fixe, on a de la vidéo à 360 degrés, c'est sympa. Pour des personnes qui goûtent beaucoup à de la VR, comme nous, qui sont confrontés. Alors ça fait un peu snob, hein, mais nous ça fait deux ans.
Mais bien sûr, mais non, mais
ça va les snobs tranquille.
Mais aujourd'hui, nous la réalité virtuelle où il n'y a pas le sentiment de présence, bah c'est moins quoi. Il nous faut que le micro il soit là, il faut que le train soit.
Mais qui fait ça et pour qui finalement? Parce que c'est un tout petit public.
C'est un micro public et du coup on le paye très cher.
Mais oui.
C'est-à-dire que sur smartphone, tout n'importe quel auditeur aujourd'hui peut télécharger des applications de VR, avoir un casque à chez Carrefour, ça coûte 3 euros. J'ai encore fait mes courses l'autre fois, ils vendent ça, un casque en carton. Ça permet de voir à quoi ça peut ressembler, la réalité virtuelle.
Mais t'es pas complètement immergé.
Mais il n'y a pas l'immersion que là, oui. Déjà, on vous a fait essayer parce qu'on a mis un petit peu plus d'argent et surtout là, avec un casque de réalité virtuelle.
C'est quel système que tu as fait tester, en fait?
Aujourd'hui, on a fait essayer un casque du coup qui intègre le smartphone, donc qui permet du coup d'occulter toute lumière et du coup d'être dans un noir profond et d'avoir du coup, quand t'as l'image, finalement, tu n'as plus que l'image.
Oui, oui, oui.
Il n'y a plus rien qui transparaît. Et donc ça doit coûter entre 30 pour les premiers prix à 70 euros.
Ce qui est encore accessible, carrément.
Par contre, il faut un téléphone très haut de gamme.
Mais genre, c'est quoi? C'est
Alors, généralement, on est sur des téléphones. Téléphones à plus de 500 euros. Voilà, 600, 700, 800 euros. C'est-à-dire des téléphones avec un écran très large qui permettent du coup d'afficher deux images simultanément.
Ah, avec le gyroscope, il y a deux images en
vrai. Quand tout
l'œil
à l'heure,
pour l'œil gauche, des lunettes en fait.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tes yeux finalement, ça, en gros, ces deux images-là, si tu mets là, tu en vois plus qu'une seule.
D'accord.
En gros, l'écran, faut imaginer aussi par rapport à tous les parents qui peuvent nous. Je sais pas si vous avez beaucoup de parents qui vous écoutent.
Oui, il y en a. Oui,
il y en a.
Romain,
ne faites pas jouer vos enfants. Voilà, parce que l'écran est à moins d'un centimètre des yeux. Et effectivement, nous, à Pixel, c'est une règle d'or qu'on s'est affichée. C'est-à-dire, en dessous de 12, 13, 14 ans, on ne fait pas essayer de réalité virtuelle. Et sur les prototypes qu'on avait, c'était mineur.
Ah oui.
À cause de la présence du smartphone.
C'est-à-dire, nous, non.
Par contre, les yeux, tu n'en as rien à foutre. Tu m'as pas prévenu.
Ah bah non, les vues, on s'en fout. Hein.
Putain, mais j'ai des problèmes d'yeux aussi.
Je sais pas ce que je vais en foutre.
Voilà.
La nana, en fait, elle a que des problèmes.
Rien qui va.
En gros, on s'est calé à ce que propose Nintendo.
Il y a quand même des trucs qui marchent.
Il y a deux, trois trucs qui fonctionnent. En gros, on s'est calé à ce que Nintendo propose avec la réalité, avec la 3D sur ses consoles de salon, c'est-à-dire en dessous de 7 ans, hors de question. Parce que du coup, les yeux ne sont pas encore complètement formés pour pouvoir apprécier
le cerveau pour interpréter.
Et le cerveau pour interagir, en fait. Donc, voilà. Et puis surtout, on était sur un proto aujourd'hui, on est sur des modèles commercialisés.
C'est dommage,
dans les grandes
parce
surfaces.
Que ça pourrait plaire aux enfants.
Et ça pourrait plaire aux enfants. Nous, on a plein de questions qu'on se pose sur le fait d'être. Là, on est sur le tout début, c'est-à-dire c'est un peu moche, c'est pas totalement réussi, etc. On n'est pas sur la réalité. Le demain, quand on sera sur la réalité, pourquoi en sortir? Mais ça, on garde ça pour un prochain.
Vous reviendrez dans 3-4 ans, quand on sera encore là, nous et vous aussi.
Non, mais si un jour, effectivement, vous essayez, pas de secret, on s'aime bien. si un jour vous essayez un casque de réalité virtuelle pure et dure, on pourra en rediscuter.
Oui, donc est-ce qu'il y a les mêmes problèmes sur les vrais casques? Donc la deuxième technique.
La deuxième technique, elle est plus immersive. Parce que du coup, il y a le sentiment de présence. C'est-à-dire que chaque objet sur la table, si on simule un objet, un verre ou un micro ou un train ou une tronçonneuse, elle est là.
Un train sur une table quand même.
Non, mais c'est-à-dire que si par exemple le
tronçonneuse,
train.
Tronçonneuse,
t'aurais été dans le train. C'est-à-dire le train physiquement.
Alors quand je suis pas dans le sens de la marche, je vomis.
C'est-à-dire que. Voilà. En gros, il y a des expériences plutôt horrifiques que tout le monde peut retrouver sur YouTube où il y a un sentiment de présence. Si par exemple il y a une main ou un corps qui est présent, il est présent à 2 cm de soi. Ce qui n'est pas la même chose avec un écran. Oui. Et du coup, la réalité est un peu différente.
En tout cas, enfin, ça...
on a hâte d'essayer.
La question que moi je me pose, c'est est-ce que.
C'est, excuse-moi, parenthèse, ouais, c'est très très drôle de voir les commentaires sur Facebook de la vidéo.
Ah oui, parce qu'on partage. Hein,
voilà. Ah, c'est ce que t'as mis, ouais.
Ceci dit, je vois les images.
Tu te vois ?
J'avais l'air un peu con.
Dis-toi qu'avec un casque de réalité virtuelle type PlayStation VR, il y a 4 diodes lumineuses bleues. Ça fait ultra
futuriste.
Ça fait ultra futuriste.
Pixel dans le turfu.
Il faudra qu'on se fasse ça, justement.
Mais
vous l'avez partagé il n'y a pas longtemps, ça. Pixel dans le turfu, ça devait être de hier ou avant-hier.
Ah bah,
avec madame Julie Canchon-Gardeau.
Oui, on fait essayer. La famille, ça, vous savez ce que c'est.
Ouais. Hein, test en premier, en fait.
Bah, voilà.
C'est les premiers.
La famille, c'est ceux à qui on fait essuyer les plâtres.
Mais ça peut être intéressant, effectivement, de se faire un petit test pour nos copains qui ne sont pas là aujourd'hui.
Mais oui,
de se faire une soirée, justement, réalité virtuelle. L'entrepôt teste la réalité virtuelle.
Moi, je vous invite.
Et avec tout le monde, on se trouve une date.
Avec plaisir.
Et puis, Paul, Géraldine, et puis tous les gens de Pixel qui veulent venir. Après,
allez, tout le monde.
Pas. Ouais,
voilà, et puis, on se fait un petit test, et puis on s'enregistre. Et voilà, exactement, tout le monde. Et on se fait un petit test et puis on débriefe un petit peu après de ce que nous, on appréhende de la réalité virtuelle.
Eh ben, ça va vous poser forcément des questions. À essayer un casque, est-ce que vient d'essayer ? Je rigole parce que je vois les vidéos.
Delphine est en train de se voir en fait en vidéo.
Et effectivement, vous allez... Elle va hurler, mais comme jamais elle a hurlé.
Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi il me regarde comme ça, lui, vraiment ?
Comme ta mère. Parce que j'ai pu... voilà,
tu peux le dire en québécois ?
Comme ta mère.
On a pu essayer... Voilà, la réalité virtuelle fonctionne énormément, très très bien sur les personnes non-joueurs.
Mm.
Ça fonctionne encore mieux.
Oui, parce que encore moins l'aspect immersif, en fait. C'est pas une expérience de jeu, en fait.
Bah,
c'est vraiment une expérience... D'immersion dans un monde virtuel, en fait. C'est pas...
En même temps, tout dépend de ce que tu montres dans ce. Dans...
Oui, et ben le jeu, ça peut être
très
beau.
Ça peut être très beau sans avoir peur. Enfin,
mais c'est ça, bien sûr. On peut faire des choses très belles sans avoir peur. Faire peur, c'est rigolo pour les copains qui sont à côté. Mais en gros, tout ce qui est jeu, et ça, je suis pas le premier à le dire, mais tout à l'heure, tu citais des podcasts de Silence on Joue, du Rendez-vous Tech, etc. On est tous d'accord pour toutes les personnes. Je me mets au même niveau que les autres.
Oh, l'autre, attends, il se rabaisse au niveau des autres, quoi.
Mais on est
moi,
tous d'accord.
Moi, je regarde 2001, le
voilà. On est tous d'accord pour dire que la réalité virtuelle, elle est encore mieux quand c'est des expériences plutôt que du jeu pur et dur. Mmh. Le jeu fonctionne pas très bien. La plupart des casques de réalité virtuelle proposent du coup un son 3D. C'est-à-dire que quand vous avez le casque, vous entendez pas la même chose devant.
En gros. Si
t'es plus dans le monde,
ça
en
n'a
fait.
Rien à voir avec ce que t'as essayé.
Je suis un particulier.
Ouais.
Je voudrais avoir ce genre d'expérience de temps en temps.
Combien ça coûte ?
Pour combien je m'équipe et comment je peux avoir différents films et pour combien ça va me coûter ?
Ah, combien ça va te coûter ? Le moins
parce
cher.
Parce que j'ai adoré.
Voilà, le moins cher aujourd'hui, c'est d'avoir un smartphone haut de gamme qui propose du coup de la réalité virtuelle.
Moi, ça craint, il est trop petit mon truc.
Bah,
il a une tête de cassette quand même.
Bah voilà, c'est non vrai. Mais ça passe encore, mais voilà, un Galaxy Note, un iPhone 6 Plus, des choses comme ça. Enfin, voilà. Un téléphone avec un casque, ça permet de voir des expériences, des jeux, des choses un peu rigolotes, voilà. Par contre, un casque de réalité virtuelle, aujourd'hui le moins cher, c'est le PlayStation VR. Donc il faut une PlayStation 4. Bon, déjà, mais bon, il y a un parc installé qui est assez important et ça coûte 300 plus 60.
Ça fait cher la détente.
Ça c'est 600 euros, c'est le moins cher.
Ouais.
Après, on passe à 700 euros pour l'Oculus Rift avec une manette. Et moi, je préviens tous les auditeurs, sans captation des mouvements, c'est-à-dire sans voir ses mains. C'est très perturbant la réalité virtuelle.
Ce qu'on vous évoquait avec Christophe.
Voilà,
tout à l'heure,
il faut voir
avant l'enregistrement.
Il faut voir
moi,
ses
j'ai
mains.
Pas vu mes mains et
mais
j'ai pris mon.
Oui,
c'était sympa
mais
quand même.
Maintenant.
Quoi.
Pendant combien de temps ?
Mais c'était court.
C'est-à-dire, voilà, vraiment, les mains, c'est très important dans l'immersion. Et après, il y a le HTC Vive, ce qui est un peu le gros luxe. Et là, on est autour de 900 euros. Et pour l'Oculus et le HTC, il faut un PC à au moins 1500 euros. Donc ça fait une enveloppe à 2500 euros.
Alors donc le message en gros c'est aller voir Pixel sur un salon.
Exactement.
Et essayer l'Oculus Rift.
Voilà, c'est ça, c'est essayer le PlayStation VR sur un salon, essayer.
Venez les rencontrer,
Rift.
Ils sont sympas.
Venez nous voir.
Voilà, discutez un petit peu avec eux.
80% voire 99% des expos qu'on fait sont gratuites pour le public. ça permet d'essayer les réalités virtuelles, oui, d'avoir quelqu'un pour vous expliquer comment ça se passe, vous tenir si vous avez trop peur.
Et si vous avez envie de vomir.
Voilà, il y a 2 ans, on avait fait les azimuts qu'on a parlé tout à l'heure. Du coup, on avait proposé une expérience, l'Oculus Rift, pour la première fois, du coup, à Rouen. Voilà, on était les premiers, on ne le savait pas, on vous l'a dit après.
Oculus VR maintenant.
Et du coup, on avait proposé une expérience d'immersion sous-marine, et effectivement, on est voilà.
Je me suis fait manger par un requin.
Et oui, tu t'étais fait manger par un requin. Voilà. Et
ça va, tu t'en sors bien en fait.
Moi, je suis encore là, c'est bizarre. Hein.
Moi, j'invite vraiment les gens à essayer d'abord, soit dans les grandes surfaces, ce que je déplore, mais bon, après tout, c'est pas grave. Hein.
Parce que moi, j'ai pas ça dans mon Hyper-U. Hein.
Non, mais dans les FNAC, à Rouen.
Ah,
en tout cas,
dans les grandes surfaces de pas de.
J'ai même pas fait gaffe en fait.
Voilà, ils vont organiser des séances de réalité virtuelle pour initier les gens, parce que tu peux en témoigner tant que t'as pas essayer, tu veux pas savoir ce que c'est quoi. En fait. Voilà. Mais
pour l'instant, on est encore que dans le jeu finalement. Ou alors, est-ce qu'il y a, des films?
C'est pas un jeu là.
Sur tous les casques que j'ai proposés, il y a des. Par exemple, je vais dire.
Pas forcément des films spécifiquement créés pour ça,
si,
mais par exemple des films.
Ça n'a aucun intérêt. Vas-y.
Il y a un film qui a été créé par d'anciens réalisateurs de Pixar. Qui s'appelle Henry, donc c'est aussi une expérience, mais après c'est vrai qu'on a l'impression d'être devant un film, d'être dans un film en fait.
Ouais.
Tu n'interagis pas, mais d'accord. Par contre la place du spectateur est vraiment prise en compte en fait. Tu as un petit hérisson qui se balade et du coup en fait il fête son anniversaire, mais il est tout seul, mais toi t'es là en fait.
Hérisson.
Donc il te regarde.
D'accord.
Hommage à Marius.
C'est des choses vraiment... un peu comme Mr Bean.
Oui, c'est vraiment un peu ça en fait, au final.
Ouais.
Mais c'est du film d'animation, c'est un court métrage, mais en réalité virtuelle. On peut aller regarder un peu partout dans la maison du petit hérisson et on peut aller un peu fouiller. On a plein de détails en fait. Et
il y a un sentiment de présence, c'est-à-dire que les objets sont vraiment là quoi. Et je vous conseille aussi Allumette, et donc toutes ces expériences là. Donc Allumette, c'est un court métrage sur la petite fille aux allumettes d'Anderson. Mmh. Donc ce conte là où effectivement on a une vue maquette, on voit le monde de la petite fille aux allumettes. Et toutes ces expériences là, vous pouvez exactement les retrouver sur un PC, donc avec les prix que je vous ai annoncés, hein, c'est-à-dire entre 800 et 1000 euros plus le PC qui va avec, ou sur le PlayStation VR, donc qui est à entre 400 et 800, 600 euros avec tous les accessoires compris. Et plus une PlayStation 4 quoi.
D'accord.
Mais tout ça, en gros, les expériences non-jeux, c'est-à-dire de films ou de ce que tu as vécu avec la naissance,
mais alors,
elles y sont.
Peut-être que vous avez déjà répondu à la question que j'ai posée, mais que j'ai pas écouté, mais qui fait ça? Qui fait ces films?
Alors, je sais pas si on en parlait en off ou en micro tout à l'heure, mais ça fait 4 ans qu'aujourd'hui la réalité virtuelle est en place. En tout cas, bon, les gens ont commencé à créer tout à l'heure. Et là, ça fait 2 ans qu'ils commercialisent leur expérience. Tu parlais du marché, mais ça concerne très peu de personnes. Donc, c'est vendu très cher. Aujourd'hui, les expériences de réalité virtuelle, par exemple, on parlait tout à l'heure en off de Batman. Pour les gens qui jouent à Batman, être Batman en VR, c'est incroyable.
Parce qu'en plus, comme c'est comme...
Mais c'est vendu
de...
20 euros pendant 1h30.
Mais oui, mais parce que c'est un truc de niche. Ouais. Donc, forcément, il y a des moyens qui sont mis en place. Donc, forcément, c'est...
Cela étant, ça reste des démos techniques.
Forcément, ça doit être beau pour être...
Mais il y a des... Enfin, il y a des marchés qui commencent à se développer. On parle souvent, moi qui suis un petit peu la tech, il y a les marchés de l'immobilier. Visiter un immeuble, un appartement avec juste son casque, sans avoir à se déplacer, à faire 400 bornes pour des gens qui doivent aller de Paris à Lyon ou de Paris à Marseille.
Mais chérie, le dis pas en ligne tout ça, garde tes idées, puis vas-y, on développe un projet.
Non, mais il y a des gens qui sont dessus, t'inquiète pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont dessus.
Ça fait un moment l'immobilier.
Les musées, les choses comme ça. Et c'est des gens qui se disent, plutôt que de déplacer les gens, leur mettre un casque, leur faire payer une expérience, le prix d'un billet, etc. Parce que c'est pas facile de déplacer toute une famille à un endroit, mais par contre, les gens, ils sont équipés de VR, de machin, dans 5, 10 ans, je sais pas combien de temps ça prendra. Mais de se dire, derrière, on pourra profiter d'une expérience. J'ai envie de déménager, je veux voir un peu comment je me projette dans l'appartement. Tiens,
comment je vais jusqu'au métro?
Je monte tel truc, je vais à tel métro, je vais à tel machin, quel est le prochain truc, quel est le prochain machin. Et que chacun ait sa propre expérience, en fait. C'est ça, en fait, la VR. On parle du jeu depuis tout à l'heure, mais effectivement, c'est pas ça qui va développer le truc.
C'est exactement ce que vous allez retrouver sur smartphone. C'est-à-dire, il y a vraiment une distinction entre les expériences type Allumette ou ce que disait Géraldine tout à l'heure, Henri, qui sont des expériences immersives en 3D, immersives, avec des objets, avec la présence, où là, on va vivre quelque chose en réalité virtuelle. Et une application plus casuel, c'est-à-dire visite un appart, je fais des travaux chez moi, j'installe une salle de bain, je veux visionner à quoi va ressembler ma salle de bain.
Alors oui, j'ai vu l'application, je sais plus ce que c'est.
Ah ben, je vous invite à, dans tous les stores à taper VR dans tous les Apple Store, Google Play, etc. Ouais.
Et vous aurez... C'est Dulux Valentine. Voilà. J'ai téléchargé l'application Dulux Valentine aujourd'hui ou hier, je sais plus. Et donc tu cliques sur ton mur et il te met la couleur Dulux Valentine. Voilà. Et c'est de la réalité virtuelle.
Non, c'est de la réalité augmentée.
Ah,
si c'est affiché sur ton écran, c'est de la réalité augmentée. C'est okay. Il vient prendre une image de ta réalité, comme IKEA peut le faire avec un ameublement. La réalité virtuelle, c'est
il
que
vient appliquer un aplat ou quelque chose comme ça dessus.
La réalité virtuelle, là, il vient te proposer complètement un modèle où il n'y a plus de réalité.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, et
tu
après,
casses un mur, tu fais un truc, tu fais.
Là, il y a plus de vraie vie. Quoi.
Ça, c'est un relais de croissance de la réalité. Voilà, parce que le jeu vidéo en tant que tel, c'est pas le seul aboutissement de la réalité virtuelle.
Moi, je vous invite vraiment. En tout cas, sur la réalité virtuelle pure et dure, au-delà des applications artistiques que nous on peut en faire, moi, je vous invite vraiment à écouter d'autres podcasts plus tech. Qui vont vraiment parler de tout ce qui va être en lien entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il y a des gens qui ont essayé, etc. En gros, ça fait 2 ans que les gens bossent dessus, des protos, des indés, des personnes tout seules chez eux. Je me suis demandé qui fait ça. Ben, en vrai, des gens passionnés. Oculus, nous, on a eu la chance d'avoir un proto il y a 2 ans. Et du coup, ça nous a permis aussi, si on avait eu les forces technologiques de le faire, on aurait pu produire du contenu en réalité virtuelle. Et je ne dis pas que ça ne nous est pas interdit. Peut-être que demain, Pixel va produire le premier jeu autour de la Normandie en réalité virtuelle. Je pense qu'on le fera avec des partenaires type Gameit. Je peux les citer parce qu'on travaille avec eux.
Qui tu veux.
Non, mais ils sont un petit QI. Et c'est une structure rouennaise qui développe du jeu vidéo autour du patrimoine, etc. Et qui propose des réalités virtuelles autour de l'abbaye de Jumièges, par exemple.
À la manière, finalement, du panorama qui arrive XXL. Gauche.
Ouais.
Rive droite, même.
Rive droite, pour l'instant.
Comment vous pourriez proposer quelque chose, non pas tourné vers le passé, mais vers le futur. De Rouen, mais vers ce qu'on veut finalement.
Vers n'importe quoi. L'expérience qu'on t'a proposée, on l'a choisie parce que c'est un endroit où on n'a plus accès dans notre mémoire, ou tout ça, qui propose quelque chose de voilà. Et là où elle a l'intérêt, la VR, c'est de se dire, tiens, ça, on ne peut pas en parler. On ne peut pas le vivre autrement qu'à travers la réalité virtuelle.
Oui.
Le vivre autrement. Pas le voir, parce que voir un fœtus, voilà, il y a plein de films qui en ont parlé. Là, tu étais avec ce bébé.
Et mais ça me faisait bizarre, qui de loin ça allait, mais qui me touche, ça me faisait
trop chaud. Mais c'est ça l'immersion, c'est-à-dire, et encore, il n'y avait pas la main qui s'est approchée.
Si, la main, elle était là.
La main, tu ne pouvais pas la sentir.
Oui, mais je la voyais de très près quand même. C'était chaud.
Non, mais en tout cas, c'est une expérience qui ne t'a pas laissé de marbre, en fait.
Ah non, mais comme je vous ai dit, mais vraiment, j'ai pas fait du cinoche. Des fois avec toi un petit peu. Non mais quand je vous dis, il faut que je prenne 2-3 minutes, 2 minutes avant d'en discuter, c'est qu'il fallait que je réalise ce qui venait de m'arriver, etc. Enfin, c'était ma première expérience. Non, mais je trouvais ça. Alors, pour clôturer un peu le sujet, parce que c'est rigolo quand même, je remarque que j'étais beaucoup moins interrompue parce que c'est pas moi qui ai parlé que pendant la Cellu Cup.
C'est marrant.
Alors, est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est l'interlocuteur finalement? Je ne sais pas, on ne saura peut-être jamais. Peu importe. Donc, je voulais finir en disant que cette expérience a été très très enrichissante et j'aimerais bien la reproduire avec d'autres vidéos si vous en avez, avec grand plaisir. Ouais. Quoi.
J'ai on va te faire vivre avec des dinosaures.
Super sympa. Ah, wouhou! C'est ouf en fait. Et c'est très 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 sympa. Et voilà, je vous encourage à vraiment suivre. Suivez les actions de Pixel. En général, quand ils se déplacent aussi avec leur casque. Donc,
Christophe,
ah, complètement. je sais pas, je suis en train de penser à des trucs.
Je vois que tu visualisais en fait. C'est pour ça.
Tu seras content quand tu verras les images en fait.
Le clip de North, enfin.
Non.
Toi, tu parles anglais quand il faut pas. Toi.
Je sais plus trop.
De Xavier Fogway. C'est le grand Nord.
Moi, je l'ai vu. On a eu l'occasion du coup quand on a fait les tests de le voir en plat. Sur un écran d'ordinateur. Moi, j'ai plus l'occasion de le voir. Et du coup, je pense que je suis un des seuls parce que du coup, enfin, en tout cas, au sein de notre équipe, parce que ça n'a pas fonctionné le jour J. Voilà, parce que c'est un peu compliqué. Au qualif.
Mais on avait le clip des Naïfs Jupiter.
Voilà, on avait un autre clip. Effectivement, c'est toujours. Enfin, c'est une autre dimension.
Carrément.
C'est vraiment autre chose. On apprécie aussi parce que le son est très important de voir le son. Quand on s'entend d'un côté, on n'entend pas le même son. Comme là, je ne viens plus parler dans le micro. Du coup, on n'entend plus la même sonorité, la même intention.
Mais alors, sinon, il n'y a pas des partenariats possibles avec les offices du tourisme,
avec
par exemple.
Avec un petit groupe qui connaît.
Non, mais par exemple, je ne sais pas, je pense à la cathédrale de Rouen. comment elle s'est construite, machin, j'en sais rien. Ça peut être une super expérience de monter un projet là-dessus.
Il y a une start-up, c'est compliqué. Voilà, c'est qu'il y a des boîtes qui se lancent et on est sur un marché. Ce que tu disais tout à l'heure, mais qui s'intéresse à ça,
et
quel public ça touche? Très peu de gens aujourd'hui. Et ça demande des investissements énormément. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent et beaucoup d'autres boîtes qui ferment aussitôt parce qu'il n'y a pas encore... En gros, les pouvoirs publics, c'est comme tout. Il faut que la technologie soit en cours. Tout à l'heure, Nicolas parlait de, du
jeu vidéo en tant que sous-art. Alors, imaginez la réalité virtuelle. Quoi. On voit quelqu'un avec un casque, c'est ridicule.
Quand Mark Zuckerberg a présenté le modèle définitif de l'Oculus, il faut imaginer que la salle entière était dans un casque. Et lui, il n'avait pas de casque. Donc, en gros, l'imagerie autour de ça est très importante. Enfin, il faut imaginer. Donc, c'était le seul à ouvrir les yeux sur les autres qui avaient les yeux fermés.
Il y a un côté 1984.
J'attendais qu'il y ait quelqu'un le sorte. Mais il y a énormément un côté 1984. Je n'osais pas le... pas trop, mais... Il y a un trait, il y a un...
Mark is watching you.
Mark is watching you. Moi, ayant des enfants, je 36 ans, c'est l'enfant de ma vie, mais mes enfants grandiront avec la réalité virtuelle et je ne sais pas ce que ça va donner.
Ouais, non, mais
et j'en ai un petit peu peur. Pourtant, on est de 2 ans.
Moi, je voudrais faire un petit coucou.
Je ne suis plus sur Facebook, là. Parce que
à Manu, à Isabelle, à Mathieu, à Romain, à Laetitia, à Waterproof, Ouria... qui ont été très 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 intrigués par cette petite vidéo partagée sur Facebook. J'espère qu'elle a été à la hauteur de vos attentes en direct live.
Elle s'est mouillée.
Grave, je me suis mouillée. Grave, j'ai eu l'air ridicule, mais franchement, j'ai pris mon pied à mort avec ce petit nourrisson de rien qui me tordait la main, qui m'a fait un peu flipper la race.
Que peut-être vous deux, vous voyez à la table, mais nous avec Christophe, on voit pas de quoi tu parles et on ne peut qu'imaginer en fait. C'est ça qui est...
c'est, en fait, il y a un côté un peu onirique et un côté un peu après super flippant.
Ah, il y a peut-être, ouais.
C'est ça les nourrissons.
Mais voilà. mais dans le ventre de leur mère, voilà. Donc je vous laisserai à vous découvrir la vidéo et puis aux autres, je vous laisse nourrir un petit peu vos idées. Voilà.
Bon, on va conclure là-dessus.
Bah oui.
Je vous propose on a déjà parlé un peu des prochains projets. Est-ce que vous avez d'autres projets et activités? Enfin, Géraldine, on a déjà un petit peu évoqué un peu en off plutôt tes activités pour la clinique radiophonique, pour d'autres choses, etc. Est-ce qu'il y a des sujets qui te viennent à l'esprit? Déjà, on te remercie parce que grâce à toi, la clinique radiophonique nous diffuse régulièrement. Donc, c'est quand même assez sympa. Et après, est-ce que tu as d'autres projets que tu voudrais mettre en avant au-delà de Pixel? Paul, ton tour viendra après.
au-delà de Pixel, dans Pixel, il y a déjà beaucoup de projets en fait.
Bah oui, c'est pour ça. Ouais, on voit que suivez la page Facebook qui est assez assez dynamique.
Plus actif que le site aujourd'hui.
Beaucoup plus actif que le site parce que plus direct aussi.
Ouais.
Mais pour Pixel, déjà, il y a donc les événements qu'on a dit tout à l'heure pour les Azimuts. Il y a aussi des résidences artistiques qui vont se faire. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure avec le centre hospitalier du Rouvray.
Et n'ayez pas peur avec résidence artistique. Au début, quand on dit
résidence artistique, c'est juste que nous, on vient avec des artistes. Ou alors nous, on vient tout seul, et on montre des choses et puis on fait aussi des ateliers, on crée des choses avec les publics avec lesquels on travaille. Donc voilà, et puis après, moi toute seule, sans Pixel, il y a pas mal de choses. Donc oui, je fais partie de la clinique radiophonique, qui est une web radio qu'on peut écouter sur le web, comme son nom l'indique. Donc c'est lacliniqueradio.com. Et après, du coup, il y a aussi pas mal de petits reportages que je commence à faire aussi avec HDR et Principe Actif.
Des radios plutôt locales.
Des radios locales, donc HDR à Rouen et puis Principe Actif à Évreux.
Oui.
Et donc voilà, pour les matinales.
Pour moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je suis pas très actif, mais je vais redevenir actif.
Salut les tweetos.
Salut sur tweetos. Vous tapez Paul Markov.
Paul Markov, ouais. C'est une usurpation.
C'est une usurpation, voilà. C'est mon nom sur Twitter. Je suis assez fan de Lego, donc je publie essentiellement du Lego.
Ah, voilà. tu dois te rejoindre avec l'ami Elian.
On vit une bromance assez incroyable.
Il faut que je te présente mon fils, en fait.
C'est un peu ça.
Ça m'a l'air sale, on peut le présenter dans quelques années.
Mais non, mais oh.
Voilà,
la bromance.
Sur Twitter, donc, je vais être très actif. Après, j'ai mis un peu de stand-by, mais je vais me relancer là-dessus. Et puis, au sein de Pixel, on va annoncer bientôt, on va faire une émission qui s'appelle Pixel le podcast et qui va être aussi normalement diffusée sur Principe Actif et HDR. On est en train de travailler comment on va diffuser ça, quel format, etc. Pour que ça soit autant accessible sur iTunes pour tout le monde, et puis que ça soit aussi disponible sur les radios locales, parce que voilà, pour nous il y avait ces deux objets là. En gros, il y aura une actu plutôt locale, puis une actu, quelque chose de plus national. Et puis c'est déjà très bien.
J'ai une super actu, mais qui est un peu lointaine. Les 3 et 4 mars, il y a un super festival à Louviers qui s'appelle Les Faits Divers. C'est un festival pluridisciplinaire, donc il y a un peu de tout, et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Et c'est à Louviers.
C'est à Louviers et c'est accessible à tous, et c'est une super asso.
On relaiera tout ça.
Par contre, mon actu, ça ira à la fin, j'ai bien compris.
C'est les invités. Tu vas commencer les coups de cœur. Les coups de cœur ou les coups de gueule d'ailleurs. Toi qui avais un coup de... Je sais pas quoi d'ailleurs.
Mais ça devait être un coup de cœur, puis finalement c'était un coup de gueule, mais je vais revenir au coup de cœur.
Starlette, c'est parti.
C'est parti.
Moi, c'était un coup de cœur pour un atelier tapisserie en fait que j'ai fait au Ulm, non loin de là.
Le Ulm en 76.
Dans le 76 en fait, chez Corinne Chrétien, qui est tapissière de son métier en fait, et qui donne des petits stages en fait le samedi pour t'aider à retaper un petit peu ton meuble défraîchi. Et j'avais un petit fauteuil un peu bridge,
un peu pourri,
carrément défraîchi, mais voire plus. Et avec son aide en fait, j'ai tout enlevé et je vais tout retaper avec du neuf et tout. Et c'est très très sympa, ça coûte 20€ le petit stage genre qui dure l'après-midi. Et bon, forcément je vais devoir y revenir plusieurs fois, mais ça me fait plaisir de participer au redevenir de mon fauteuil que j'aimais beaucoup alors qu'il était moche, et que là il va être propre et beau et neuf. Et donc je suis super contente, et merci Corinne, en plus elle est super sympa et toutes les petites stagiaires sont très sympas. Et c'est que des nanas, voilà. Donc mecs, intéressez-vous un petit peu à votre mobilier, c'est très important.
Joli.
Oui, parce qu'il y a une règle que t'as pas énoncé, mais on a une minute pour
une minute, c'est tout.
Christophe, es-tu prêt? C'est parti.
Je suis prêt. C'est indirectement donc par l'intermédiaire de notre ami qui n'est pas là, Arnaud, que j'ai découvert Adrien Soleiman.
Notre ami, il n'est pas là, c'est pas notre ami. Hein.
Il n'est pas là, oui, mais c'est pas notre ami.
Bon, d'accord, c'est pas notre ami, mais en tout cas, il m'a fait découvrir Adrien Soleiman, saxophoniste de jazz qui s'est métamorphosé en chanteur pop. Son premier album qui s'appelle Brille, c'est peut-être révélateur ou un futur, est une vraie réussite. Des textes élégants, empreints d'émotions passionnelles. Et comme le titre est, parce que je trouvais que c'était un joli titre qu'avaient trouvé les Inrock, une nouvelle étoile brille dans le ciel de la chanson française. Je vous laisse écouter la suite.
Et voilà. Effectivement. Avant que nos invités finissent un peu leur peaufinent plutôt leur coup de cœur ou leur coup de gueule, j'ai cru comprendre.
Je suis pas content.
Eh bien, c'est mon tour.
Ah, oui.
Je vais vous parler de Inside. Inside, qui est un jeu, un univers dystopique dans lequel on contrôle des humains qui sont gérés par la pensée en fait, faisant de nos semblables des sortes de zombies. On incarne un enfant dont l'aventure va nous faire découvrir en même temps que lui les horreurs du monde qui l'entoure. Parfois dérangeant, dur, glauque, puisque le protagoniste va connaître plusieurs fois la mort dans cet environnement hostile rempli d'angoisse universelle, que ce soit la noyade, la course-poursuite, la peur du noir, la guerre. Malgré cette ambiance lugubre, voire malsaine, le jeu regorge d'une certaine poésie et de grâce avec des scènes mémorables. Un style épuré, assez minimaliste, il bénéficie de décors magnifiques avec un gros travail sur la lumière,
la maniabilité, l'animation du héros. Tout est d'une fluidité qui permet une immersion immédiate, puisqu'il s'agit plus d'une expérience narrative que d'un jeu nécessitant une prédisposition et une dextérité particulière. C'est disponible sur PC, sur Xbox One, pour une expérience de 4 à 5 heures. À noter, hop, je suis bloqué.
Oh, voilà. Dommage.
Géraldine, oui. As-tu un coup de cœur à nous proposer?
Oui, moi je...
Attention, c'est parti.
Alors moi, je voulais parler de BoJack Horseman, qui est une série Netflix que j'ai découverte il y a peut-être 2 semaines. Je les ai déjà tous enchaînés.
Ah ouais. Il y a 3 saisons, non?
Moins 3.
Oui. et du coup, c'est une série, donc c'est une série de dessins animés où le personnage principal, donc c'est BoJack Horseman, qui est un cheval en fait, qui en fait incarne un peu la star, l'ancienne star d'Hollywood, donc Hollywood dans la série, avec une petite anecdote dans un des épisodes. On a en fait des humains, mais aussi des animaux qui se comportent comme des humains, et du coup souvent ça me percute assez en fait. Je me dis que les animaux sont assez bien choisis, ouais, en fait, par rapport aux personnalités des personnages. Et on a en fait tout le panel de Hollywood, quoi.
C'est fini. Merci, Géraldine.
J'ai oublié plein de trucs, en fait.
C'est pas grave, laisse aux gens le loisir de découvrir le truc. C'est l'intérêt, c'est l'exercice.
C'est
l'exercice. Court, ouais. Paul.
Je suis prêt.
Es-tu prêt? Bah, si t'es prêt.
Ça sent... tu me dis quand c'est top.
Attention, Paul, à ton tour, c'est parti.
Alors, ça va parler que aux gamers, et tant pis, c'est pas grave, je me ferme tout d'un public, mais je vais parler des sous-titres. Des sous-titres qui sont en caractère 4 dans tous les jeux. On a des écrans géants.
Tu parles de Red Dead Redemption?
Non, je parle de tous les jeux. J'ai commencé The Witcher 3 la semaine dernière, voilà. J'ai eu un peu de vacances et j'ai commencé The Witcher 3. Au-delà des sous-titres qui sont écrits de manière minuscule, le jeu est en français. Il est plutôt pas trop mal doublé pour être en français. En tout cas, il se fait vraiment bien en VF par rapport à l'ensemble des autres jeux. Par contre, les sous-titres, au-delà des sous-titres, les titres dans les menus sont écrits en caractère 4. 4, quand on a des écrans qui font plus de 100 de diagonale. Ça craint, c'est pas possible aujourd'hui. Et ça, c'est mon coup de gueule. J'en peux plus. Il y a Red Dead Redemption, qui est le trailer qui est sorti la semaine dernière, en même temps que la Nintendo Switch, et j'en ai pas parlé. Et pourtant, c'était Dieu sait si ça me tenait à cœur.
Tu veux qu'on en parle? On fera une émission spéciale.
On en fera une émission spéciale là-dessus. Mais en tout cas, les sous-titres, il faut arrêter. Et je suis tout cœur avec tous les autres qui sont...
C'est fini.
Problème de riche.
Merci Paul, merci Géraldine d'avoir joué le jeu du coup de cœur, du coup de gueule aussi.
Ah bah, il fallait.
Donc on arrive à la fin de cet épisode, c'était plutôt sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'était plutôt sympa.
Hein? Oh, ouais. Bravo l'enthousiasme, Delphine, merde.
Oh, oui. C'était très très bien.
C'était très sympa.
Très intéressant.
Ouais. Mais quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a plus de saison. Hein.
Ah, bah bien sûr.
Hey, 82, l'année des prunes.
Franchement, hein. Et puis, hey, quand l'oignon il a plein d'épaisseur, c'est qu'il va faire froid cet hiver. Hein.
Je pense que c'est le moment de conclure.
Ah merde, quand la porte grince, il va faire froid cet hiver. Merde.
Tu parles de mon oignon ou...
Oh là.
C'est le moment de conclure.
C'est le moment de conclure.
Je crois qu'il faut qu'on arrête.
En tout cas,
là,
laissez-nous tous les commentaires que vous voulez sur le site de l'entrepode.fr. Vous trouverez tous les liens vers ce qu'on présente, hein, comme d'habitude, parfois même d'autres articles, même si franchement, en octobre, on a été très peu prolifique en la matière.
Bah, attends,
peu,
mais il y a un moment, il faut qu'on se repose.
C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il n'y a rien eu, en fait, en octobre.
Bah donc, oui, mais bon, il y a...
C'est l'automne.
Donc, on va essayer de s'y remettre. Moi, j'ai 2-3 idées. Je crois qu'Arnaud m'a dit qu'il avait des idées. On n'est pas obligé, on a envie, c'est tout, c'est différent.
Ah.
Pour nous retrouver, quel que soit sur le...
Nuance.
Pour nous trouver où que vous soyez sur le web, on est un peu partout en fait.
Vous soyez sur le web.
Vous tapez entrepôt dans un moteur de recherche.
Le web.
Sur le web.
Vous soyez sur le web, vous tapez Google.
Sur les internets.
Sur les internets.
92 le web.
Donc sur les internets, vous tapez entrepôt et vous trouverez. On est même sur Google Plus. On y est toujours.
Et ça.
On n'est pas sur Caramel. Peut-être qu'on pourra se recréer une adresse Caramel.
Et ça, c'est hipster à mort.
Mais non, c'est foutu, c'est fini. C'est fini, non, c'est complètement.
Mais non, t'as fait relance. T'as rien écouté, toi.
Sans déconner, j'ai rien compris, toi. Toute 70, tu crois que c'est encore. Je vais repêcher chaud.
Tu vas te calmer, ouais. Bon, bref. Si vous utilisez iTunes, Il y a des gens qui utilisent iTunes, personne n'est parfait.
Et
vous pouvez nous laisser,
on dit que c'est des gens bien.
Vous pouvez nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur la merde de podcast. Ça contribue à nous faire connaître dans le monde des podcasts, comme par exemple ce qu'a fait Aude, ou les amis du podcasteur, ou encore Ronan, qui lui, il nous a mis que 4 étoiles. Bon, oh, il nous a mis,
oh,
par contre, il nous a mis un super commentaire. Vous pouvez nous, également nous mettre des étoiles sur la page de l'Entrepod. Ce qu'a fait également Ronan, qui cette fois-ci nous a mis 5 étoiles. Je ne sais pas pourquoi, quand même. T'as peut-être un petit souci, c'est pas grave. Ou...
Tu peux faire en québécois.
Mais aussi Walter, Guillaume, Julie et tous les autres. On ne va pas tous vous citer, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Pour des considérations plus terre-à-terre, attention, on a toujours notre Tipeee qui est en ligne. Si vous voulez nous soutenir financièrement.
Alors,
si
vous nous filez du fou.
Voilà.
Est-ce que Karim Debache peut donner sur le Tipeee de...
Bah, il suffirait déjà qu'il sache... Il faudrait déjà qu'ils sachent qu'on existe. En tout cas, on espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. On se retrouve le mois prochain avec une première pour nous, mais qui sera finalement une seconde. Vous le suivez ? Puisque un de nos précédents invités va venir à nouveau à notre micro.
Ouais.
Et c'est pas Steve Baker.
Again.
On se retrouve dans un mois. En tout cas, d'ici là, où est-ce qu'on peut vous croiser ? Sur le net ou ailleurs d'ailleurs, messieurs, dames. Donc, Géraldine.
Sur l'internet mondial, on peut nous croiser.
Toi, où peux-tu être contacté. Géraldine, c'est parti. C'est à ton nom.
Moi, Géraldine.
Villers.
Alors,
toi, Géraldine, ou comme
Géraldine,
tu veux,
@pixel.org. Donc,
d'accord.
Pixel avec un 3 à la place du
d'accord.
E.
D'accord.
C'est ça qui est con.
Et on est toujours obligé de le dire. C'est le running gag.
Ouais.
Et sinon, oui, sur la page Facebook de Pixel, on peut retrouver toutes
alors,
les infos.
Réagis vite. Hein.
Et je réagis assez vite. Parce que je m'ennuie un petit peu, alors je passe ma vie sur Facebook. C'est ça le dur travail de community manager.
Exactement.
Et toi, Paul ?
Prochainement. Moi, en ce qui me concerne,
donc,
prochainement, pas grand-chose.
Sur Twitter, visiblement.
Sur Twitter, Paul Markov, principalement autour des Lego, Lego, jeux vidéo, culture numérique. Voilà, j'essaye de faire des jeux de mots un peu ridicules et un tout petit peu politiques. Voilà.
Ah, jamais, d'accord. Donc,
teasing. Le mec s'engage.
Il lève le poing et tout, quoi.
Un petit
toujours
peu,
le point
mais
levé.
Toujours avec des Lego et des jeux.
Salut les Twittos.
C'est lui qui
c'est Paul Markov.
Et toi, Starlet, dans les semaines
alors,
qui viennent,
oui.
Est-ce qu'on va te retrouver quelque part
mais
sur les réseaux sociaux ou ailleurs?
Alors, on va me retrouver dans les bacs.
Dans les bacs.
Dans les bacs à disques.
Waouh.
Parce que prochainement, on va sortir notre EP, notre deuxième nouveau-né en fait. Avec 5 titres qui devraient sortir début décembre ou fin novembre, peut-être fin novembre.
Ouais, fin novembre quand même.
Ouais,
teasing.
Fin novembre,
wow.
Ouais. Et donc, bah, suivez-nous.
Donc pour Ken Kiyou, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris.
Avec notre groupe Ken Kiyou, voilà. Voilà, on va sûrement faire des petits concerts d'ailleurs décembre, janvier, février, machin pour lancer l'EP. Et si vous voulez vous le procurer alors que vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez vous rendre sur notre site kenkiyou.fr, kenkiyu.fr.
Si vous nous suivez, vous trouvez le truc. Hein.
Et au pire, bah voilà, vous trouverez bien le lien quelque part. Et
si vous tapez
Ken Kiyou
dans Google.
On est content de vous présenter parce qu'on a pris un pur pied à le faire et ça va rocker.
Christophe.
Donc, moi, vous pourrez me retrouver sur Facebook, mais surtout.
Sur Ken Kiyou aussi.
Sur Ken Kiyou aussi, mais Delphine l'a déjà dit. Mais c'est jeudi soir, il y a un super concert au Temple Saint-Éloi.
Donc, jeudi
le 3 novembre.
3 novembre.
À 20h30, c'est gratuit. C'est une artiste dont on avait parlé ici même il y a deux
toi-même,
ans
d'ailleurs.
Maintenant, moi-même. C'est une Normande qui joue de la harpe et qui chante, accompagnée de son mari batteur. C'est extraordinaire et en plus ce sera au Temple Saint-Éloi, donc avec une acoustique assez intéressante.
Comment s'appelle-t-elle ? Tu l'as pas dit son nom ?
Lidwin, si je l'ai dit, Lidwin. Franchement,
c'est magnifique.
Franchement, venez, c'est gratuit. Merci, Michael Ferrand.
Moi, je peux pas, j'ai répète, mais mon bassiste, il sera pas là.
Ouais, le bassiste, il ira pas en répète parce qu'il a envie de voir Lidwin depuis deux ans. Et donc, vraiment, ça vaut vraiment le déplacement.
Et Lidwin, il n'y a pas du Europe & Co dans le... qui trempe là-dedans ?
Peut-être qu'il y a du Europe & Co. mais,
Europe & Co, tu veux dire Freddy ?
Mais je crois que c'est surtout
et
le rêve de l'escalier.
Le rêve
l'escalier.
En fait, c'est un peu un groupe de consanguins.
Hein, un peu. Oh, hein.
Tu sais,
qui organise un gros truc. Et moi, ça fait deux ans que j'ai envie de la voir. Et
bah, voilà, écoute,
ce moment va arriver.
Merci,
t'en
Christophe.
Peux plus, tu dors encore ou pas ?
Non, je dors plus.
Et on perd ses cheveux.
Voilà.
Et puis bah, moi-même le week-end prochain, donc ce sera le week-end du 5 et 6, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a la convention du film fantastique. Cette année, on n'a pas de stand, mais je pense y aller y faire un petit tour parce que je trouve que c'est vraiment sympa d'être présent là-bas. Et puis le 12 novembre, c'est bientôt, le Hipster Café nous accueille avec mon groupe Wisdom pour une soirée rock.
Rock and roll
en compagnie de Dust Desire, qui est un groupe de hard rock, et The Shept Stud. Alors désolé si je prononce mal. Un groupe de rock allant de Gainsbourg à Radiohead. Alors vas-y, viens.
On sera détonne du détail.
Et donc, au Hipster, le 12 novembre. Allez-y, je vous invite à venir faire un petit tour une soirée rock and roll.
Et tu sais quoi, on y sera tous.
Non, toi tu m'as dit que t'étais pas là.
Ah bah peut-être que.
Enfin bref. En tout cas, bah, nous, on a passé un super moment. Et puis, on vous dit à tous, allez
bisous.
Et puis, à bientôt.
N'hésitez pas,
à bientôt.
Si vraiment vous pensez qu'on peut faire des choses encore mieux avec plus de budget, bah, donnez-nous du budget. Allez sur Tipeee.fr et allez taper Entrepod et donnez-nous du pognon et on va vous faire des trucs de malade mental.
Peut-être
quoi.
Des trucs avec Pixel, pourquoi
mais
pas.
Crache,
et sinon, allez voir Pixel.
Mais oui.
Plein d'expos partout. Donc, voilà. On contribue un petit peu à cette communication là-dessus et
merci.
On vous souhaite longue vie.
Allez,
salut.
Bisous, bonjour.
Au revoir.
Béco lapin.
Que sería, que sería, que sería, que sería, que sería, que sería.